BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business, à la radio, à la télé et puis sur le web. Bonjour à vous qui nous écoutez également en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Nous sommes jeudi 2 mai 2024. Au programme de cette émission, une question: faut-il augmenter la rémunération variable des salariés? Notre gestionnaire de patrimoine Géraldine Métifeu va nous dire que c'est comme la rémunération des patrons, tout est une question de proportion. À 10h30, votre dose quotidienne d'économie et Nicolas Dose qui va revenir sur notre place sur le podium, en haut du podium de l'attractivité en Europe. On va décrypter le baromètre EY qui existe depuis 1997. Côté bourse, c'est Antoine Larigonnerie depuis Euronext qui est déjà connecté, ainsi que nos deux traders pour le match des traders dans quelques minutes. Ce matin, on vous coach, on va s'intéresser de près au family office. Comment s'inspirer des méthodes des family office pour gérer mieux votre argent? C'est Alexandre Leng de Tudigo qui va nous apprendre quelques éléments. Le question-réponse du jour portera sur l'automobile électrique et la bourse. Comment performent les pure players de l'électrique sur les marchés? Les investisseurs, vous le savez, redoutent une guerre de prix et une chute des marges face à l'arrivée de la concurrence chinoise. Au décryptage, deux experts des marchés et deux passionnés de voitures vers 11h30. On investira aujourd'hui dans votre plan épargne-retraite. Vous savez, ce PER a déjà séduit 10 millions de Français. Comment expliquer le fort engouement pour ce plan d'épargne retraite? Et on répondra aussi à une question de Raphaël, un de nos auditeurs, sur le plan épargne retraite populaire. Au programme, il y a vous, comme Raphaël, vous nous écrivez à l'adresse direct@bfmbusiness.fr, comme Laurent qui nous demande son avis, notre avis sur les dépôts à terme. Il a une grosse somme déposée à 3%. Géraldine Métifeu va lui dire si c'est une bonne idée de laisser cet argent sur son compte à terme. Et puis vous pouvez nous écrire donc l'adresse direct@bfmbusiness.fr ou bien sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. Il est temps de partir rejoindre Antoine du côté de Euronext avec un CAC 40 hein, qui est en dessous des 8000 points.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, on vous retrouve sur fond de pression marquée à la baisse ce matin du côté du CAC 40.
Oui, moins 0,69% pour l'indice vedette de la Bourse de Paris, effectivement. On avait décroché des 8000 points en clôture mardi soir avant le 1er mai et on s'enfonce hein, sous ce niveau symbolique à 7930 points. À noter que la tech surperforme très légèrement. L'Euronext Tech Leaders est quasiment inchangé, moins 0,03%, mais de la pression à la baisse aussi sur l'Eurostock 50 qui perd 0,33%. Et sur le DAX à Francfort, en revanche, là, on a une hausse, hein, plus 0,07%. Donc, des performances très disparates, des marchés un petit peu perdus, il faut bien le dire. Après, alors notamment des effets techniques dus à ce jour férié du 1er mai, puis aussi le rendu de décision de la Fed hier, les commentaires de Jerome Powell qui constate que l'inflation est toujours tenace, mais parallèlement, on a tout un tas d'indicateurs économiques qui montrent que l'activité est peut-être en train de faiblir du côté des États-Unis, hein, malgré les prévisions et les analyses plutôt encourageantes de l'OCDE. Donc, du coup, on a des marchés un petit peu perdus au milieu de ces considérations. Il y a toujours autant de résultats d'entreprise aussi qui biaisent un petit peu la tendance. Alors, à noter le secteur des semi-conducteurs qui est quand même largement vendu ce matin avec STMicroelectronics en particulier qui perd 1,9% à 36,93 €. On a eu des résultats plutôt encourageants de la part de Qualcomm hier soir, mais avant-hier soir c'était AMD qui passait sur le grill des trimestriels et là franchement les perspectives étaient pas fameuses. Ça recoupe toutes les indications en provenance d'STMicro, en provenance d'Intel, etc. Des grands noms des semi-conducteurs, notamment avec les dynamique de croissance de l'IA qui semble plafonner et peut-être des problèmes sur d'autres marchés. Donc du coup, là, le sentiment est plutôt négatif sur l'ensemble du secteur. À noter la forte consolidation de Stellantis hein, qui recule encore, moins 3,2% à 20,21 €. On a également Safran qui recule d'1,18% à 201,80 € ou Sanofi, moins 0,8% à 92,30 €. En revanche, une très forte hausse à signaler, c'est celle de Téléperformance. Hein. Après les chiffres d'activité trimestrielle, le titre s'envole, plus 11,3% à 95,16 €. À noter Engie qui avance de 3,2% à 15,32 €. Et puis de très bonnes performances qui sont aussi saluées par la bourse, celle d'Imerys qui gagne 9,3% à 33,10 €. Et également celle de Worldline qui prend 7,9% à 10,58 €. Le CAC donc moins 0,57%, 7939 points. Un petit peu de volatilité, un petit peu d'indécision en ce début de séance. Et l'euro 1,0718 €. Lorraine,
merci cher Antoine, on vous retrouve un petit peu plus tard pour continuer à faire le point sur le CAC. À tout à l'heure.
Tout pour investir, le journal de votre argent.
Le journal de votre argent avec notre gestionnaire de patrimoine du jeudi, c'est Géraldine Métifeux. Bonjour chère Géraldine.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes associée gérante d'Alter Egal et avec vous, un journal qui commence par de la générosité.
Générosité intéressée, si c'est possible.
On va parler du don. 2% des foyers les plus aisés ont donné environ 2500 euros.
Et un peu plus en fait finalement, 2686 en moyenne versus 2372 en 2022, c'est les chiffres de 2023 bien sûr, on n'a pas les chiffres de 2024, c'est évident. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que comme on a l'habitude de dire, tous les dons comptent, mais enfin les dons des plus riches comptent un peu plus que les autres dons. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que suite à la suppression de l'ISF, il y a eu moins de générosité, parce que comme il y a moins de contribuables soumis à l'IFI que ceux qui étaient à l'ISF, fatalement il y a moins d'envie de faire baisser son plafond d'IFI, fatalement. Néanmoins, ceux qui payent l'IFI contribuent encore plus largement que les 2% dont qu'on vient d'évoquer, puisqu'eux, ils donnent en moyenne 6200 euros par an, ce qui est quand même assez généreux malgré tout.
Voilà, c'est un chiffre qui est intéressant. Ça permet de se benchmarker un peu.
Ça permet de se benchmarker, puis surtout, ça veut dire que si on le fait chaque année, ça veut dire qu'on a un chèque un peu plus important en janvier, quoi. Un chèque, un virement.
Ce don aux associations et aux fondations. Une question justement corrélée, finalement. Faut-il augmenter la rémunération variable des salariés?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que cet écart qu'on pointe souvent entre les patrons des grandes entreprises, c'est principalement ça qu'on vise. En général, ça passe à la téloche et tout ça. C'est plutôt cette partie-là qui est visible. Si on indexait un peu de la même façon que pour les patrons d'entreprise, la rémunération variable des salariés, oui, ce serait pertinent. Alors, il y a un travail en France qui est fait par le gouvernement, alors pas assez visible ou pas assez effectif ou pas assez efficace avec le prime de partage de valeur ajoutée. Mais si on veut réduire ces 130 fois la différence entre le patron et la moyenne des salariés, sans doute que l'avantage, il sera plutôt sur la partie variable, parce que sur le fixe, la réelle complication, c'est que si demain vous êtes avec des marchés qui sont plus compliqués, vous avez longtemps les marchés de votre entreprise, hein, pas les marchés cotés, vous trouvez un peu coincé, vous licenciez, donc c'est pas forcément l'objectif non plus. Et sur une année où il y a un peu moins d'inflation, et donc on sait bien que les négociations étaient un peu moins importantes, les négociations salariales, si on pouvait augmenter un peu mieux le variable, j'ai envie de dire du coup, est-ce qu'on pourrait éventuellement être moins taxé sur la partie variable aussi en tant qu'entrepreneur? Peut-être que ça marcherait pas mal aussi.
Le débat est ouvert sur BFM Business et dans Tout pour investir. On en reparlera dans quelques minutes avec Alexandre Leng de Tudigo. Un mot de Ternel qui s'émancipe.
Qui s'émancipe de Maïf, qui était son principal mono, en fait. C'était d'ailleurs son mono
investisseur. Dites-nous ce que c'est Ternel pour ceux qui découvriraient.
C'est en fait un fonds d'investissement dans tout ce qui est start-up à impact. Alors c'est très à la mode parce que l'impact, on considère tous qu'on en a besoin. On sait bien que la version côté de l'impact ne marche pas trop, voire pas du tout. Et c'est encore le private equity qui a les meilleures doses d'investissement à cet égard. Et Ternel, du coup, s'émancipe de sorte à pouvoir en fait avoir plusieurs investisseurs à son capital. Là, c'est un fonds qui fait 150 millions de mémoire et qui aura vocation à créer un deuxième fonds de une centaine de millions, 120 millions. Ils ont également vocation à être à l'Europe, à l'échelle européenne et pas uniquement à l'échelle française. Et pour ceux qui s'intéressent, comment dirais-je, tout ce qui est CFDR, on sera en article 9 sur cette partie-là, c'est-à-dire avoir un impact extrêmement positif, à la fois dans le social, à la fois dans la gouvernance et à la fois dans l'environnement.
Voilà. Ternel qui s'associe à Capital Croissance et qui veut incarner une nouvelle génération d'investisseurs.
Exactement.
Pour soutenir les start-up de l'économie
solidaire,
impactante. Vous restez avec nous Géraldine, on va continuer à parler de ces sujets entre autres dans quelques minutes, mais avant ça on va passer une tête chez nos traders pour savoir que faire dans cette journée où symboliquement on est passé en dessous des 8000 points côté CAC 40.
Tout pour investir. Le match des traders.
Et on a bien besoin de vous, messieurs, ce matin. Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour à tous.
Et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour Andrea, on va démarrer avec vous. Andrea, on est passé en dessous du seuil symbolique des 8000 points. En dessous des 8000 points, quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller et quelles sont les recommandations que vous pouvez partager avec nos auditeurs et nos auditrices?
On a une ouverture compliquée sur le CAC avec une baisse assez importante dès l'ouverture. Pourtant, on s'attendait pas forcément à cette baisse. Au début, on avait des futurs qui étaient globalement plutôt bien orientés ou proches de l'équilibre au pire. Et finalement, on a quand même glissé pas mal. On est venu très proche de cette zone des 7900 points. Alors le vrai support sur le CAC, il est à 7875. Si on venait à casser 7875, il y aurait quand même une petite dégradation de la tendance avec derrière un autre niveau à 7812 qu'il faudrait surveiller avant du coup là un glissement qui pourrait être plus important. important vers les 7550. Donc voilà, on n'en est pas encore là pour le moment. C'est les niveaux qui tiennent. On voit d'ailleurs une orientation quand même un peu meilleure des futurs aux États-Unis qui sont quand même mieux orientés. Ça peut aider aussi le CAC à sauver un petit peu cette zone des 7900 points. Donc il faudra continuer d'évaluer la situation au fur et à mesure que la journée passe. Il y a quand même eu beaucoup de choses à digérer sur le CAC. Il y a toujours des résultats d'entreprise qui sont assez importants et qui sont publiés au fur et à mesure, mais il y a aussi ces annonces de la Fed hier qui ont été publiées. Alors si on regarde hier la réaction sur les marchés américains, elle a été extrêmement volatile, avec d'abord une baisse, puis derrière une tentative de rebond, mais on est sur les marchés américains quasiment au même niveau qu'avant les annonces de la Fed. Donc du coup, quand même, on a assez bien digéré la nouvelle. Au final, pas grand chose de nouveau. On craignait une Fed très très dur, beaucoup plus strict en matière de politique monétaire, qui aurait pu peut-être laisser la porte ouverte à une future hausse de taux, alors que du coup on n'a pas du tout eu ce discours-là de la part de Jérôme Powell. À l'inverse, il a confirmé qu'il n'y aurait pas de prochain mouvement de hausse de taux du côté de la Fed, mais que les taux resteraient sur ces niveaux élevés encore longtemps. Donc du coup, ça a quand même plus ou moins rassuré le marché, mais on n'a pas vraiment vu ça ce matin sur le CAC. Donc attention à cette zone, encore une fois, 7875, c'est la zone à risque sur le CAC qu'il faut maintenir. Si on devait se redresser un petit peu, il y a première zone de résistance vers, on va dire, 7960, 7980. Après, derrière, c'est les 8040 points qu'il faudrait aller viser pour essayer d'avoir une embellie et sortir un petit peu la tête de l'eau sur le CAC. Mais attention, parce qu'on revient quand même sur des niveaux techniques qui sont risqués. Donc il y a quand même beaucoup plus de nervosité et de fragilité. Là, on est quand même aidé aussi par des futurs américains qui sont pas trop mal orientés, donc il faudra être aussi très attentif à l'ouverture des marchés américains, voir quelle direction vont prendre les marchés américains, parce qu'on est encore une fois sur une zone sensible sur le CAC. On aura aussi une fin de semaine chargée avec demain le rapport sur l'emploi américain, donc ça aussi ça aura son importance, toujours dans un contexte où les marchés essayent d'évoluer les prochains mouvements des banques centrales. Donc attention aussi à cette fin de semaine qui peut être animée sur les marchés.
Attention à la fin de semaine qui peut être animée. Et vous, Mathieu Cerron, qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui et comment vous réagissez à ce que vient de nous dire Andrea?
Ben, on a des marchés qui restent désorientés, à la recherche de catalyseurs auxquels se raccrocher. Nous sommes toujours dans le scénario que nous évoquons depuis pas mal de temps déjà, d'une tendance de fond qui reste haussière, mais de marchés qui restent nerveux à court terme. Et il faut dire qu'entre des signaux mitigés concernant la croissance économique et une inflation qui est toujours persistante, la situation, elle est quand même complexe à arbitrer pour les marchés. André en a parlé, la Fed hier, bon, statu quo, pas de surprise, mais plutôt rassurant du fait qu'il n'y ait pas de hausse de taux à venir. Les résultats d'entreprise restent bons, on le voit ce matin encore. La palme revenant à Téléperformance qui prend un...
Ah Mathieu, on vous a perdu, on a un petit problème technique. On était sur Téléperformance effectivement qui est leader de la cote ce matin en hausse de 11%. Mathieu, est-ce que vous êtes de nouveau avec nous?
Oui, moi je vous entends.
On vous a perdu à Téléperformance.
Ah, pardon. Donc je disais, la palme revenant à Téléperformance, la plus forte hausse du CAC. On aura les résultats d'Apple ce soir, qui vont être très importants aussi. Donc, on est toujours donc entre les mêmes limites, avec des variations violentes à court terme, mais les mêmes limites. 7850, 7900, zone plutôt basse, 8150, 200, zone plutôt haute. Donc là, ce que je vous donne, ce sont les niveaux sur le futur, échéance mai. Il y a environ 20 points d'écart avec le cash. Donc moi, ce que je fais, comme on se rapproche de la zone basse, autour des 7850, 900, j'ai plutôt tendance à acheter, et vu le peu de visibilité plutôt des calls, donc il y a quelques instants j'ai acheté des calls 8050 échéance mai, ça vaut pas très cher, ça vaut environ 20-25 points pour jouer justement une reprise, considérant que oui, on a un petit biais baissier à court terme, mais quid du potentiel lorsqu'on s'approche justement de cette zone des 7850-7900, et si jamais on a un rebond important, on aura un biais haussier, mais quid du potentiel à proximité des plus hauts récents. Donc voilà la façon dont je travaille actuellement, donc plutôt une position, on va dire, haussière à moyen long terme, et puis des arbitrages à court terme selon les biais haussiers, les biais baissiers qui se mettent en place. Et sur les actions, il y a des choses intéressantes aussi. Je pense notamment à Stellantis qui baisse pas mal, qui a beaucoup baissé ces derniers jours et qui arrive sur 19,5-20 sur un niveau support intéressant. Alors oui, le secteur de l'automobile, c'est un petit peu compliqué ce matin. En ce moment, même si ce matin, nous avons eu des résultats intéressants en ce qui concerne les ventes d'automobiles en France, ce n'est qu'en France, mais c'est plutôt encourageant. Donc des marchés qui se cherchent, qui sont désorientés vraiment à la recherche de catalyseurs.
Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage. Petite lampe torche sur notre journée compliquée sur les marchés. Et très bonne journée et à la semaine prochaine, Andrea et Mathieu, pour d'autres décryptages, un autre match des traders. On va continuer à essayer d'éclairer votre journée d'investisseur particulier. On a quelques sujets d'actualité qui vous concernent à suivre pour débattre.
Tout pour investir, tout pour votre argent.
L'équipe du jeudi au service de votre culture financière. Géraldine Métifeux, notre gestionnaire de patrimoine, est toujours parmi nous. Rebonjour Géraldine.
Rebonjour Lorraine.
De l'équipe Alter Egal. Et Alexandre Leng de Tudigo. Non, pas Alexandre Tudigo, comme je vous présente depuis tout à l'heure. Et là. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lorraine.
Nous allons continuer le débat avec vous, Alexandre. Lancé par Géraldine en début d'émission sur la rémunération variable des salariés. On parle beaucoup de celle des patrons. Finalement, Géraldine nous dit, comme pour les patrons, tout est une question de proportion. Que penser de la paye, de la rémunération des salariés de manière fluctuante,
ouais,
variable?
C'est un sujet qui est complexe. Très, très, très complexe. Passionnant, intéressant et qui peut avoir des effets assez incroyables sur la croissance de l'entreprise et l'engagement des salariés. Et en même temps, à être capable de créer du désengagement et puis une baisse de la collaboration. Je m'explique, nous chez Tudigo, on a mis en place une politique de salariale avec du variable et des variables très forts depuis maintenant plus de deux ans.
Très fort, ça veut dire quoi?
Bah, ça veut dire qu'on peut doubler, voire plus, son salaire.
Avec pas capé, quoi.
Et pas plafonné d'ailleurs. Ah. Ouais, exactement. Donc on a des jeunes chez
je
nous
postule.
qui ont ont pu, en fait, parce qu'ils avaient du talent et ils n'avaient pas forcément l'expérience.
Est-ce qu'ils sont mieux payés que vous? Parce que c'est vous le patron, en fait.
Ouais, ils peuvent être mieux, ils sont mieux payés que leur manager. Ils sont mieux payés qu'à un moment. Bah, moi j'ai une rémunération variable aussi, hein, parce que je pense que c'est pareil. Moi j'aime bien effectivement pouvoir dire à mes actionnaires mon salaire va être dépendant de la performance de l'entreprise, du chiffre d'affaires, du résultat qu'on va dégager à la fin, et que effectivement, toute cette équation fonctionne bien. Je pense que c'est sain. Donc, c'est sain d'un côté, ça permet d'avoir une politique qui est redistributive, d'avoir tout le monde qui est engagé dans le même bateau. Après, il y a une histoire de dosage. Parce que le problème avec le variable, c'est que c'est un peu une drogue en même temps. Donc ça crée des, pour certains, hein, qui prennent d'un coup un salaire net de 2-3 000 euros et puis ils prennent des mois où ils vont faire 10 000 et plus, ça fait des grands shoots de dopamine. Et puis quand c'est plus ça, il y a une énorme descente, démotivation, et puis voilà, énervement. Et puis ensuite, vous avez aussi le sujet de l'année, on change d'année, l'entreprise a changé de dimension, ce qu'on peut attendre d'un salarié est différent aujourd'hui de ce qu'on pouvait attendre hier, et puis les règles changent, et là, il y a de l'insatisfaction qui se génère.
Là, du coup, tu es vraiment sur la partie, on va dire, perso, c'est-à-dire ma compétence, ma contribution perso. Donc, ça peut créer des difficultés. Moi, ce que j'envisageais plus dans le discours, et c'est ce qu'on a mis plutôt en place sur Alter Egal, mais ce qu'on voit aussi, hein, c'est une rémunération variable au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que tout, la prime de partage de valeur ajoutée, des primes contractuelles de qualité, etc. Donc, c'est pas... Ouais, l'intéressement, on a mis en place aussi, participation. Mais à cet égard, tu peux lisser, nous, c'est ce qu'on a fait comme choix. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tout le monde touche la même chose. Donc, quand on a atteint le max de réussite sur Alter, tout le monde touche, c'était ce mois dernier, exactement le même niveau. Je peux combien ils ont touché, 6 000 balles, je crois, chacun.
Ça dépend aussi des profils.
Non, ce que je veux dire, c'est que si t'es un profil commercial, t'es obligé de le mettre en variable. Ça n'a pas de sens de pas avoir de variabilité de revenus sur un commercial, sinon le mec il reste chez lui. Mais si tu veux pas créer trop de différences avec les fonctions support et back, par exemple, dans ces conditions-là, je pense qu'il faut un variable global entreprise. C'est-à-dire que ce qu'il faut en général sur un commercial, c'est avoir un fixe pas trop élevé, histoire qu'il se lève un peu le matin. Avec un variable effectivement déplafonné et qui puisse être intéressé à la réussite globale de l'entreprise en dehors de sa contribution personnelle. Sa contribution personnelle, elle peut être très bonne dans une année mauvaise. Si l'entreprise fonctionne bien, tout le monde peut participer à cela. Et je pense que c'est cette partie-là qu'il faut développer. Ce que a commencé à faire le gouvernement avec les primes de partage de valeur ajoutée qu'on a appelé la prime Macron et puis qui s'est généralisée, ça c'est plutôt pas mal parce que t'arrives à, je sais plus à combien d'été, mais je crois que t'arrives à 6 000 balles. On peut fiscaliser pour l'employeur sur un salarié qui gagne sa vie correctement. C'est quand même assez confortable. Si tu ajoutes l'intéressement et ainsi de suite, sur une année qui est très bonne, le mec peut se faire 12 000, 15 000 balles, 20 000 balles de plus, sans être dans une fonction commerciale.
Il y a cette logique aussi que c'est du salaire, donc ça va être taxé comme du salaire.
Ça dépend. Ouais. L'intéressement, on peut le prendre dans le plan épargne entreprise, et auquel cas, il n'y a pas de taxation. Et puis, pour l'entreprise, c'est des charges extrêmement faibles. C'est 8% de cette CRDS, donc c'est assez faible. Donc pas forcément. Et la PPV, quant à elle, elle n'est pas du tout fiscalisée ni pour le salarié, ni pour l'employeur. Donc, à cet égard, ça peut être extrêmement intéressant. Mais ça réduira pas forcément les écarts avec le patron ou avec le chef d'entreprise. Mais après, c'est une question de responsabilité aussi. La réelle variable d'ajustement, globalement, c'est quand même le patron de l'entreprise. Parce que quand il y a une tuile, c'est plutôt lui soit qui va sauter, soit qui va réduire sa rémunération. Enfin, typiquement, c'est mon cas, moi, qui suis de la société majoritaire. Il n'y aura pas de débat. C'est-à-dire que c'est un problème dans l'entreprise, c'est moi qui gère.
Nous, c'est ce qu'on fait. Hein, dans les périodes, quand il y a eu des périodes creuses dans la vie de l'entreprise, j'ai pas eu de soucis. On n'avait pas eu de soucis avec mon associé à réduire notre salaire au SMIC. Bah, pour terminer et compléter sur ce sujet, je pense qu'il y a la rémunération. On peut mettre le variable au niveau individuel. Nous, ce qu'on a vu, effectivement, l'intéressement, le variable collectif au niveau entreprise, c'est aussi une manière d'engager tout le monde. Mais on l'a complété récemment avec des variables au niveau des pôles et voire de petites équipes pour qu'on ait quand même un sentiment collectif, mais avec des contributions qui peuvent être quand même bien mesurables. Voilà. Et tout ça, c'est lié avec ensuite une politique d'entreprise où on va vraiment être très, très rigoureux sur la fixation et le suivi des objectifs.
Le variable comptabilisé par équipe ou par pôle. Une question, justement, peut-être qu'il va toucher une grosse prime d'intéressement ou peut-être qu'il a touché un bonus, on ne sait pas. C'est Laurent qui nous a écrit et qu'on salue. Il nous écrit souvent des salves de questions, donc j'ai choisi cette question dans toutes les questions qu'il nous envoie en début de semaine. Il nous demande ce qu'on pense des dépôts à terme. Il a une grosse somme déposée à 3%. L'avantage, c'est que c'est liquide et relativement disponible rapidement. Géraldine, qu'est-ce que vous conseillez à Laurent dans le contexte actuel ? Est-ce qu'on mise sur les comptes à terme et les dépôts à terme, est-ce que c'est pas mal en ce moment ?
Alors oui, c'est pas mal en ce moment. En l'espèce, les comptes à terme sur 3 mois sont ceux qui sont les mieux rémunérés. On peut dépasser les 4%. Donc, pour rata temporis, c'est...
Vous pensez aux comptes boostés ?
Non, compte à terme. Les comptes sur livret boosté, on n'arrive pas à ces niveaux-là. C'est vraiment les comptes à terme, c'est-à-dire que mais d'habitude les comptes à terme c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Avec un gain plus on reste. Là c'est un peu l'inverse. Les comptes à terme les mieux rémunérés sont plutôt sur 3 mois. Alors ça fonctionne surtout sur la très entreprise, mais ça marche aussi sur les particuliers. Alors je sais pas de quelle grosse somme il parle. Donc ça après c'est à vérifier. Mais en tout cas sur 3 mois c'est imbattable. Après dans 3 mois. Et avec la BCE qui va se prononcer début juin, il est probable qu'il y ait une variation plus impactante sur ces taux-là. Auquel cas, on pourra aussi se tourner, mais c'est pas forcément, aussi liquide dans ce sens où il faudra attendre le début de l'année 2025 pour récupérer le bonus de rendement. Mais il y a des fonds euros aujourd'hui boostés, notamment celui de Cardiff, qui est extrêmement bon, où si vous avez une grosse somme, ça veut dire qu'on peut prendre 1,80 de bonus sur un fonds euro qui a rémunéré 3% net avant les prélèvements sociaux l'année dernière. C'est pas mal. Donc ça, je pense qu'il faut regarder dans le détail et puis surtout il faut voir un tout petit peu si l'argent va servir à quelque chose dans 3 mois ou dans 4 mois ou si en réalité il prépare sa retraite avec. Donc il peut faire un bridge avec le compte à terme sur les 3 prochains mois et puis se reposer la question dans les 3 mois à venir parce que la baisse des taux annoncés va forcément bousculer un peu la hiérarchie dans ces fonds, ces investissements qui sont liquides et sans risque.
Voilà, un compte à terme pour bridger dans les quelques mois qui viennent en attendant d'y voir un petit peu plus clair, c'est la réponse de Géraldine à Laurent. Un mot peut-être du Bitcoin, parce que peut-être que Laurent voudrait finalement acheter des Bitcoins ou d'autres cryptos avec cette somme sur laquelle il nous sollicite. Amaury de Tonquédec nous a rejoint. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
En préparant cette interview, nous n'avions pas anticipé que le Bitcoin allait autant se péter la figure hier, on va dire. Et donc, on était en train d'extrapoler sur un Bitcoin à 100 000 euros. On se disait, si le Bitcoin allait toucher 100 000 euros, regard sur ce chiffre, Amaury, est-ce que c'est possible, envisageable, souhaitable?
Alors, ma position n'a pas changé depuis la dernière fois, lorsqu'on avait parlé notamment avec Géraldine. Bon, on a eu une annonce de la Fed hier qui maintient ses taux. Ça va dépendre aussi de ça, en fait. Je pense que ça arrivera peut-être un petit peu plus tard que prévu, entre guillemets, parce qu'il faudra attendre que la Fed baisse ses taux, qui les a maintenus hier soir. Parce que, voilà, des taux élevés, c'est pas bon pour les actifs risqués dont font partie les crypto-monnaies. Un Bitcoin à 100 000 dollars, moi, je pense que ça va arriver. C'est possible que ça arrive avant la fin de cette année. Maintenant, ça dépendra aussi du rythme de potentiel de baisse des taux de la Fed, et puis aussi de tout un tas d'autres événements, des élections américaines. Mais voilà, je pense que les fondamentaux n'ont pas changé. Les ETF sont toujours là. L'adoption est croissante. On a eu hier, d'ailleurs, l'annonce de la condamnation de Chenpeng Zhao, l'ancien PDG monde de Binance, à 4 mois de prison. C'est beaucoup moins que ce qui était requis. Il y avait 36 mois de requis. Lui a dit que voilà, il a fait son mea culpa, a dit qu'il s'excusait, qu'il s'expliquait. Bon, ça prouve que voilà, tout est un peu en train de rentrer dans l'ordre entre guillemets, ça s'institutionnalise. Il dit d'ailleurs pour assurer que le fait que Binance ait été passé sous les radars, un peu sous Ray Young, ça montre que finalement il n'y a pas de problème, que la plateforme est safe. En tout cas, c'est ce que lui dit. Voilà donc. Dans les fondamentaux, pour résumer, ça change rien. Même si effectivement, on a un Bitcoin à moins 13% sur un mois, moins 10% sur une semaine, il reste toujours à plus de 100% sur un an. Et des corrections comme ça post-halving, c'est ce qui s'était passé dans les cycles précédents. Cette correction, elle pourrait durer encore une à trois semaines, voire un petit peu plus. Je pense toujours qu'à mon avis, après l'été, le cours du Bitcoin devrait s'apprécier plus que ce qu'il n'est aujourd'hui.
Oh, j'ai hâte d'avoir votre réaction, Géraldine. Non, je suis dubitative, mais je suis une nature dubitative. Non, je trouve ça super. Moi, je pense qu'en yens, on l'atteindra plus vite, sans doute. Et
deux, on atteindra.
100 000 yens, peut-être, ce sera plus facile. Mais dans l'absolu, le Bitcoin, le halving, etc., ça reste quand même extrêmement spéculatif. C'est-à-dire que on est quand même sur, je ne sais pas comment on peut se fonder pour dire qu'on arrivera à plus après. Alors oui, peut-être des flux, parce que les flux font la performance. J'imagine que c'est ça l'idée générale.
En fait, il se raréfie avec le temps, avec notamment le halving qui arrive tous les 4 ans, qui est une raréfication de l'offre.
C'est programmé, tout le monde le sait.
Voilà, c'est programmé, donc tout le monde le sait. Et puis la demande,
autres,
elle augmente.
Éventuellement.
Voilà, et la demande, elle augmente. Quand on parle de la Fed ou par exemple qui baissera un moment ses taux. La masse de dollars, elle est illimitée. C'est ce qui fait que il se déprécie dans le temps, alors que la masse du Bitcoin, elle, est limitée. C'est ce qui fait qu'il va s'apprécier dans le temps.
Comme le pétrole.
Comme le pétrole, mais là,
comme l'or.
Sauf que l'or, on voit bien que en réalité, et on a souvent dit que le Bitcoin était un peu l'or numérique. On voit bien sur l'or que là, récemment, très récemment, ça a beaucoup séduit. Mais si on regarde l'évolution du cours sur les 15 dernières années de l'once d'or. Fallait attendre pour gagner un peu d'argent sur
le Bitcoin. On parle du passage des 100 000 dollars, on en parle depuis 5 ans. Hein. Enfin, c'est à chaque année.
Je crois qu'on en parle tout le
temps. Dès que ça monte, dès qu'on a un peu un boule.
Ça peut être intéressant, mais la question, c'est peut-être de trouver un produit structuré sur les bitcoins. Ça pourrait être intéressant pour des clients. Alors, je ne pense pas forcément à votre fameux Laurent, Lorraine, mais peut-être qu'on pourrait structurer un produit sur la probabilité de hausse ou de baisse du bitcoin. Ça pourrait être intéressant. Je dis ça parce que la volatilité est souvent un élément qui permet de structurer les produits de façon intéressante. Et nous-mêmes, on lance un produit là qui est sur le CMS 10 ans. Et on parie sur la baisse des taux. Alors, on dirait que ce n'est pas très original, mais enfin, ça nous fait sortir un produit capital garanti au terme avec un rendement annuel à 6,40.
Mais c'est vrai qu'on pourrait, surtout que la volatilité du Bitcoin a tendance à se réduire avec le temps. Donc voilà, on verra. Mais effectivement, c'est un frein. Ça fait peur à la plupart des gens, cette volatilité-là. Parce que oui, c'est vrai que c'est volatile. Mais quand on part depuis la création du Bitcoin, dans le temps, et il continue de s'apprécier, en tout cas pour l'instant. Voilà, ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça devrait continuer à s'apprécier.
Un conseil en investissement serait-il celui de miser sur xAI, la start-up avec laquelle Elon Musk veut concurrencer OpenAI, qui vient de lever 6 milliards de dollars. Mais nous n'avons pas le temps de traiter ce sujet. Nous en parlerons la semaine prochaine. Ça s'appelle un teasing. Mais Elon Musk et Tesla, nous en parlerons en revanche dans une grosse heure, puisqu'on va dédier notre question-réponse au secteur automobile et à la bourse. Comment performent les pure players? Pourquoi c'est si compliqué l'automobile électrique en bourse? On va sans doute reparler d'Elon Musk, du coup, dans une heure, avec Thomas Veillé d'Investir.ch. Et Antoine Larrigaudry de Pureonex qui nous fait l'amitié de revenir dans l'émission pour parler d'un de ses sujets de prédilection, la voiture. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Géraldine Métifeux d'Alter Egal. Merci Alexandre Leng de Tudigo. Vous êtes notre coach dans quelques minutes. On va parler Family Office avec vous. On va essayer de s'inspirer des meilleures méthodes des Family Office pour mieux gérer notre argent. C'est la promesse du coach dans un gros quart d'heure. Et puis à Maurice Tonquédec aux manettes de l'émission que je salue, qu'on retrouve en fin d'émission pour le programme de BFM Crypto, le club qui a lieu tous les jours à 15h. Vous restez avec nous, on marque une pub. Et ensuite, Nicolas Dos arrive pour nous parler de cette place en haut du podium de l'attractivité que la France occupe depuis quelques années. On va parler du baromètre EY qui existe depuis 1997. Vous vous rendez compte? À tout de suite.
Tout pour investir. Dose d'économie.
Votre dose d'économie et tout qui ne va pas mal en économie. Nicolas va nous parler du dernier baromètre EY qui confirme la première place de la France en termes d'attractivité. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Qu'est-ce qui nous vaut cette distinction?
Le nombre d'investissements réalisés par des étrangers sur le sol de France en 2023, ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Donc voilà le chiffre. On est presque à 1200, à 1194 projets d'implantation en France ou d'extension d'activité déjà présente. C'est un chiffre qui est un peu en baisse par rapport à 2022, mais qui nous laisse quand même pour la cinquième année de suite à la tête du podium. Je précise bien qu'on compte le nombre de projets, on ne compte pas les milliards qu'il y a derrière. Hein. Et puis, point important, c'est que oui, on est en tête sur le nombre de projets, mais on n'est pas du tout en tête sur le nombre de nouveaux projets. Donc la plupart, environ 70% ou un peu moins, sont des projets d'extension d'activités déjà existantes. Et donc c'est la cinquième année qu'on est à la tête du podium. C'était pas le cas il y a encore 15-20 ans, vraiment.
Voilà.
Et je peux vous donner quelques exemples. L'américain eSpace qui a décidé d'implanter son siège et son usine de nanosatellites à Toulouse. Il y a GSK qui a décidé de mettre 240 millions d'euros d'investissement dans ses usines d'antibiotiques qui existent déjà en Mayenne. Vous avez l'allemand Daimler qui met 50 millions d'euros dans son usine de bus qui est déjà existante dans la Meuse. Et puis alors, bon, le projet emblématique, mais il n'y en a pas tout le temps des comme ça. Là, c'est le Taïwanais Prologium qui promet 3000 emplois en créant une usine de batteries électriques pour les voitures installée à Dunkerque. On en avait parlé de celui-là, bien sûr.
Voilà, Toulouse, Mayenne, Meuse, Dunkerque, ça maille le territoire. Le gouvernement veut y voir le résultat d'une stratégie économique qui réussit. Est-ce qu'on peut dire qu'il a raison ?
En partie seulement, puisqu'on peut considérer que c'est la politique de l'offre qui est récompensée. La politique de l'offre, elle démarre sous 2014 avec François Hollande. Elle se poursuit avec la première réforme du marché du travail et Myriam El Khomri. Après, effectivement, on passera au premier quinquennat d'Emmanuel Macron avec les ordonnances pénicaux sur le marché du travail et puis, bien sûr, la réforme fiscale de 2017. Mais voilà, on mène une stratégie qui est constante, qui est stable en matière de politique de l'offre depuis 10 ans, et on voit que c'est payant. Alors évidemment, politiquement, l'exécutif et notamment Emmanuel Macron s'en attribuera très certainement à la paternité, notamment le 13 mai à l'occasion du nouveau Choose Friends qui va être organisé en France.
Pourriez-vous nous lister nos points forts, en fait, et nous dire pourquoi ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les investisseurs choisissent la France ?
Clairement, la politique de l'offre qui produit des résultats. Et puis, c'est vrai, le crédit d'impôt recherche qui est monté en puissance. Il a vu le jour en 1983, le crédit d'impôt recherche. Clairement monté en puissance. On a une manœuvre qui est considérée de bonne qualité. La fameuse stabilité fiscale. C'était pratiquement le principal reproche que l'on nous faisait pendant des années. On ne nous reproche plus l'instabilité fiscale. L'électricité décarbonée est devenue un argument qu'on ne voyait pas par le passé, c'est vrai. Les infrastructures sont bonnes. Et puis, il faut bien reconnaître que la position géographique de la France en Europe occidentale, c'est un hub. La France, on est merveilleusement bien positionné. Voilà vraiment des points forts de notre pays.
À l'inverse, qu'est-ce que les investisseurs étrangers pourraient reprocher à notre pays ? Qu'est-ce qui dissuade ?
Le prix de l'énergie, c'est la grande force des Américains, par exemple. L'une des grandes forces, même s'il a baissé en 2023. Le coût du travail, qui reste malgré tout plus élevé chez nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand on regarde ces projets d'implantation ou d'extension d'activités déjà existantes, ils créent beaucoup moins d'emplois que dans les autres pays. On en a plus des projets, mais ils sont moins créateurs d'emplois. 35 emplois en moyenne par projet, contre 49 emplois en moyenne en Allemagne, 61 en Grande-Bretagne, 299 postes en moyenne en Espagne. Après, le droit du travail, oui, il a été réformé, mais ça reste complexe. Le climat social, qui n'a jamais été un point fort de la France, bien sûr. La bureaucratie, bon, il n'y a pas que la France qui a des problèmes de bureaucratie, mais Dieu sait si on en a parlé, la complexité. Et puis aussi, une certaine difficulté d'accès au financement. Le marché des capitaux en France est moins liquide que dans d'autres pays. Et puis, alors, il y a un nouveau point, un nouvel élément négatif qui ressort des enquêtes, pas de celles d'EY d'ailleurs, mais des dernières enquêtes d'attractivité, c'est le moins sécurité. Et ça, on n'avait pas l'habitude de le voir. Et notamment, le souci de la sûreté des personnes. Là, ça va plus être pour des étrangers qui décident d'implanter des activités en implantant également des salariés. C'est ce qui ressortait d'un baromètre qui avait été réalisé et publié par les conseillers du commerce extérieur de la France en février.
Voilà, la sécurité, un des points faibles que les investisseurs étrangers peuvent reprocher à la France. Merci beaucoup.
Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle si vous ajoutez ça au PIB du premier trimestre, au recul de l'inflation, à l'absence de dégradation par les agences de rating. La petite séquence est pas mal.
Mais c'est pas sur BFM Business qu'on va dire que l'économie va mal, hein, c'est bien de le rappeler.
Oui, enfin, il y a des moments où il faut aussi reconnaître qu'il y a des choses qui ne tournent pas très rond.
Mais soulignons les choses qui vont bien. Merci, cher Nicolas. Cette séquence, t'as trouvé en podcast et en replay. Pour vous aussi, je vais vous faire votre avis finalement sur est-ce que tout va si mal en économie. Vous pouvez également participer au débat sur la chaîne YouTube de BFM Business dans la partie commentaires, réagir et alimenter la réflexion et la discussion avec Nicolas Dose et notre rédaction. À suivre, nous allons nous occuper de votre portefeuille avec Franklin Pichard.
Tout pour investir en portefeuille.
D'autres bonnes nouvelles peut-être, en tout cas celle d'une consolidation. Bonjour Franklin Pichard.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directeur général de Kipling Finance. Avec vous, on va parler d'une consolidation qu'on attendait, qui est bienvenue. Maintenant, comme ça, on peut passer à la suite. Racontez-nous.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait quand même de nombreuses semaines que les marchés, les gérants, les gestionnaires de portefeuille étaient un petit peu gênés pour investir. On avait des progressions qui étaient très importantes. On avait Là, au début du mois d'avril, on était dans cette attente des publications qui pouvaient donner un élan. On a touché un plus bas, c'était le 16 avril, on était à 7899, donc il n'y a pas de drame aujourd'hui. Il y a 15 jours, on était à un niveau plus bas que maintenant, mais le bilan sur le mois d'avril est quand même négatif. De début avril à fin avril, le CAC a perdu 2,7% environ. Et ça peut effectivement, vu ce qu'on a aujourd'hui, ça peut un petit peu continuer.
Pour ceux qui nous écouteraient de manière délinéarisée, comme on dit, en podcast ou en replay ultérieurement, nous sommes jeudi 2 mai. Effectivement, le CAC est passé en dessous des 8000 points. Et ça, voilà, ça ne vous inquiète pas trop, cher Franklin, pour l'instant. Même si, historiquement, normalement, le mois d'avril est un très bon mois boursier cette année.
Oui, mais voilà. Il est bon parce que on a eu toute une succession au fil des ans de bonnes publications. C'est vrai que d'habitude on a peut-être un trou d'air un peu plus tôt dans l'année, et là on n'a pas vraiment eu ce trou d'air. Donc le mois d'avril a corrigé un petit peu avec retard les corrections qu'on a au cours du premier trimestre.
Voilà, un petit trou d'air après une série de gains, on va le dire comme ça. Quelles sont les plus fortes baisses que vous avez dans votre radar, Franklin ?
Eh bien écoutez, si on fait le bilan, on a quand même trois titres qui se distinguent puisqu'ils font quasiment entre 9 et 10%, 10% de baisse. Hein. On a Edenred, Kering et Dassault Systèmes, donc ce sont au sein du CAC 40, sont quand même des gros titres, des belles valeurs. Et effectivement, on a vu que quand il y a des mauvaises nouvelles, quand les gérants sont un petit peu inquiets, eh bien la sanction est lourde et la main est très très lourde dans ces cas-là. Moyennant quoi, quand on regarde Dassault Systèmes, moi je vois que des analyses positives. La question est jusqu'à quand le marché va baisser, mais il faut garder ses valeurs sur son radar, hein, clairement.
Dassault Systèmes, Kering et Edenred, plus forte baisse au mois d'avril que vous regardez, que vous avez regardé près, Franklin. Côté forte hausse, qui surveillez-vous de près ?
Eh ben, on a vu, on a constaté une Iberdrola Westfield qui a progressé de plus de 5%, un peu comme Crédit Agricole. Et puis surtout, le grand gagnant, ça a été Total Energy qui a progressé de 8% sur le mois d'avril. On voit, ils ont profité des tensions entre les pays d'Iran et de la tension du pétrole. Et par conséquent, effectivement, ça a largement profité à Total Energy.
Bon, ça continue ces résultats, on en attend encore d'autres. 35% des résultats publiés aux États-Unis et sur le S&P 500. Et tout ça, en majorité, bat le consensus. Qu'est-ce que ça vous inspire pour la suite ?
Eh bien, plutôt des bonnes choses. Ça veut dire qu'une fois encore, les analystes étaient un petit peu trop prudents. 75% qui effectivement battent, ça veut dire des résultats 8% supérieurs à ce qui était anticipé par les analystes. Et puis, dans quel contexte ? On en a parlé, vous en avez parlé avant. Le discours de Jérôme Powell traduit quoi ? Une économie américaine très solide, Europe. On a une révision à la hausse des perspectives de croissance pour l'année 2024. On voit que finalement, les choses ne vont pas si mal. Donc, ce trou d'air dont on parlait tout à l'heure, cette correction du marché, eh bien oui, on va la mettre à profit à un moment pour rentrer et faire notre marché. Les soldes sont décalés en bourse. On va en profiter.
La Fed qui maintient sa vision d'un atterrissage en douceur réussie. Nous, notre Europe, avec des perspectives de croissance positives. Pour finir cette séquence avec vous, Franklin, est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs quelques entreprises, quelques valeurs que vous regardez de très très près?
Oui, mais on pourrait reprendre les publications de ce début de semaine ou de la fin de la semaine dernière. Vous reprenez un titre comme Air Liquide. Air Liquide a eu effectivement un petit passage à vide, moins 7,3% sur un an. Sur le premier trimestre, un trimestre comparable, il y avait une base de comparaison qui n'était pas du tout favorable, comme ça a été le cas de beaucoup de sociétés cette année. Mais N'oublions pas qu'Air Liquide chouchoute ses actionnaires et qu'au mois de juin, ils feront pour la 32e fois une attribution gratuite d'une action nouvelle pour 10 anciennes détenues. On est tout à fait, on reste positif sur du moyen terme et long terme et depuis toujours sur Air Liquide et on n'est pas les seuls. Vous avez Goldman, Barclays, UBS ou Berenberg qui ont des objectifs entre 200 et 220 euros. Donc typiquement, on a une des cotes qui mérite aujourd'hui de rentrer sur la valeur. Également, on a des titres comme Saint-Gobain. Saint-Gobain, intéressant d'en parler parce qu'on a eu
nouveau un changement management. Ça, c'est l'actualité.
Le niveau de cours aujourd'hui de Saint-Gobain, ce sont les cours de 2007. On a eu des variations entre-temps, mais ce sont les cours de 2007. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire. La bourse et les gérants croient au discours et surtout aux opérations qui sont menées par Saint-Gobain. On sort de périodes incertaines dans lesquelles on n'avait pas du tout confiance dans la politique qui était faite. On voit qu'aujourd'hui, même après la hausse qu'on a pu connaître 42% sur 52 semaines, les objectifs sont encore supérieurs. J'ai vu des objectifs à 88, 90, 95 euros sur Saint-Gobain, malgré la hausse qu'on vient de connaître. Donc, c'est une histoire à regarder. C'est peut-être une belle histoire pour les prochains mois. Et puis, enfin, Téléperformance, la publication du jour, on valait 350 euros il y a deux ans. On vaut autour de 100 euros. On vaut autour de 94 euros aujourd'hui. Odo, par exemple, à 162 euros comme objectif. Donc, on a effectivement un rattrapage qui commence à se mettre en place et une approche des analystes qui commence à être positive. Et ça, c'est une bonne chose pour le marché.
Un mot de Stellantis pour conclure, parce qu'à 11h30, nous allons dédier notre question-réponse au secteur électrique en bourse. On va parler de pure player. Un mot de Stellantis, parce que le secteur auto a un petit peu déçu. Stellantis, à l'intérieur du secteur, ça donne quoi ?
Oui, c'est ça. Stellantis n'est pas une exception dans le secteur auto. Hein. Tout le secteur auto s'est pris les pieds dans le tapis. Mmh. On l'a vu là avec Mercedes, Porsche, Aston Martin, Renault. On voit que tous les titres ont très fortement corrigé. Le titre avait bien progressé, mais le titre vient de 27. On est à 20, autour de 20. On a baissé donc de 25, autour de 25%. Mmh. Typiquement, l'électrique patine. On sait qu'une voiture électrique freine très bien. Et bien, on voit que Stellantis freine très bien quand ça va moins bien, quand les immatriculations sont un peu à la peine. Je parlais avec un spécialiste de l'électricité automobile qui me disait le problème du secteur, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un petit peu à nouveau des problèmes de fourniture sur les piles, sur les batteries, et que du coup, les délais se rallongent et potentiels acheteurs finalement marquent un petit peu le pas et attendent que la situation soit un peu plus claire. Moyennant quoi, les analyses sur Stellantis restent très très positives. Ils revoient légèrement à la baisse leurs objectifs et les objectifs aujourd'hui, au lieu d'être de 30, se situent plutôt entre 26 et 28 euros. Pour un titre qui en vaut autour de 20, l'histoire peut être belle et surtout Stellantis au deuxième semestre sortira toutes sortes de nouveaux modèles et c'est là-dessus que Carlos Tavares souhaite communiquer et sauver l'année 2024.
Voilà, les histoires d'entreprises qui continuent de s'écrire, celles qui viennent alimenter vos envies d'investissement. Merci beaucoup Franklin Pichard pour ce décryptage ce matin. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site web. Franklin Pichard avec nous tous les 15 jours. Assure, on s'occupe de votre culture financière. On va s'inspirer de ce que font les family office. Comment copier ce qu'il y a de meilleur dans cet univers du management de l'argent pour vous, chez vous, avec vos finances personnelles. C'est à suivre dans Tout pour investir.
Tout pour investir, le coach.
Qu'est-ce qui influe sur les décisions d'investissement de ce qu'on appelle les family office? Qu'est-ce qu'un family office et pourquoi ça vous concerne en tant qu'investisseur particulier, même si vous ne confiez pas votre argent à ces institutions? Alexandre Leng de l'équipe Tudigo au décryptage. Bonjour cher Alexandre.
Bonjour Lorraine.
D'abord, on va démarrer par un petit peu de définition. Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que c'est qu'un family office ou qui connaissent le nom, mais sans trop de réalité derrière, donnez-nous une définition.
Un family office, hein, c'est une structure privée qui gère le patrimoine d'une famille ou de plusieurs familles. Donc on distingue les monofamily office et puis les multifamily office. Multifamily office qui sont un peu comme des conseillers en gestion de patrimoine, mais qui au lieu d'avoir des clients de manière individuelle, vont à chaque fois gérer le patrimoine des familles et donc avec des surfaces d'investissement assez importantes.
Voilà, plus que peut-être un gestionnaire de patrimoine classique.
Ouais, alors en fait, d'ailleurs, hein, si on prend le cas d'un monofamily office, hein, en général, un family office, il est constitué lorsqu'un entrepreneur cède tout ou partie des actions de sa société pour une somme très importante. Les family office en général, on se parle de 100 millions et plus, vont mettre à la tête de cette entité qui va gérer leur argent un directeur d'investissement qui aura pour objectif de préserver et faire fructifier ce patrimoine, bah, comme un bon père de famille finalement sur le long terme.
Vous savez que le code civil, maintenant on n'a plus le droit d'utiliser cette expression de bon père de famille.
J'allais dire bon père et bonne mère de famille, ça marche?
Je crois qu'on n'a plus le droit de l'utiliser. On a fait ce sujet il y a quelques semaines déjà dans l'émission. Peu importe, ce qu'on veut, c'est une gestion de l'argent efficace, bien pensée. Et surtout, le premier élément que vous allez partager avec nous, c'est la vision. Parce qu'on va décrypter la manière dont investissent les family office. Il y a une grille d'investissement, on va dire, commune. Et la première, en tout cas un des points communs, c'est une vision à long terme. Est-ce que c'est lié justement au fait qu'il y a le mot famille dedans?
Ben oui, bien sûr. Parce qu'en fait, le principe même du family office, ça va être d'aller jusqu'au bout de la vie de cette famille. La transmission également aux enfants, pourquoi pas.
Vers l'infini et au-delà.
Vers l'infini et au-delà, parce que d'ailleurs, des family office, parfois, la finalité, c'est de tout donner à des causes. C'est assez intéressant parce que finalement, on va avoir une gestion de l'argent qui est très différente de celle qu'on aurait dans un fonds d'investissement où on a pris de l'argent à des investisseurs qui veulent absolument obtenir un rendement. Là, on s'autorise beaucoup plus de choses. On peut investir sur le très long terme. Hein. Donc, on ne se parle pas d'investir sur 3, 5, 7 ans. On peut investir sur des horizons de 10, 20, 30 ans même et plus. On peut investir sur toute classe d'actifs. On peut également donner de l'argent. On peut se permettre vraiment d'avoir une vision qui va concilier à la fois le travail de l'argent sur le court moyen terme et puis une plus-value ou simplement même une préservation du capital sur la durée de vie de ce véhicule qui en fait a une durée de vie illimitée.
On le voit, c'est le très long terme. Effectivement, ça n'est pas le long terme des marchés. Un autre point commun dans la manière dont les family office investissent, c'est une logique de diversification un peu particulière. Racontez-nous ça.
Ouais, bah c'est les family office. Hein, il y a un baromètre qui est sorti de l'Association française des family office la semaine dernière, l'AFO, qui nous montre qu'effectivement les family office diversifient très bien leurs investissements. Ils en mettent aujourd'hui 23% en private equity contre 21% l'année dernière. C'est leur investissement numéro 1. Pourquoi ? Le non-coté, investissement de long terme par excellence, investissement qui est dynamique si on le garde justement sur une période longue, et puis investissement qui aussi a du sens. Ça, c'est les family office comme les entrepreneurs aiment bien. Ils le mettent également en action, 21%, en immobilier pour 21% aussi.
C'est assez équilibré en fait.
Très équilibré.
Et puis, un cinquième.
Et puis ils aiment bien aussi également la dette privée, qu'elle soit cotée ou non-cotée, donc l'obligataire qui permet de faire travailler l'argent sur du court terme avec quelque chose de plus garanti. Et puis ils en gardent un tout petit peu en liquidité, hein, l'équivalent de ce qu'on pourrait être des comptes à terme par exemple, pour garder justement une poche qu'ils vont pouvoir utiliser pour un achat impulsif ou alors pour le donner à des associations, parce que les family office sont des grands donateurs d'ailleurs, pour les différentes causes qui leur tiennent à cœur.
Un petit peu de liquidité à hauteur de 10%, voilà, pour profiter aussi d'environnements de taux en hausse ou en baisse. Vous l'avez dit, à part égale du non-coté, du coté, de l'immobilier. Finalement, c'est presque une diversification qu'on pourrait copier, nous, à titre individuel.
Absolument. Absolument. C'est une excellente diversification. Alors, c'est une diversification quand même. La part de non-coté recommandée par l'AMF, on se parle plutôt de 5%, 5-10%. Pour autant, effectivement, à partir d'une certaine surface financière, lorsqu'on a cette fameuse épargne de précaution de côté, qu'on a déjà des investissements plus sécurisés, de l'immobilier, c'est une bonne allocation pour aller chercher du dynamisme, tout en ayant quand même de l'argent qui est mis un peu plus en sécurité. Et puis vraiment cette vision de diversification, le family office va vraiment diversifier sur différentes classes d'actifs, et puis il va différencier également sur les secteurs d'activité, sur les stades de développement. Il s'autorise beaucoup plus de choses qu'un fonds d'investissement qui est en général une thèse d'investissement sectoriel, stade de développement, taille de ticket. Le family office, il fait un peu ce qu'il veut.
Diversification, vision long terme, et là-dessus vous rajoutez une petite dose d'instinct.
Ouais, et ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant et lié aussi au fait que les family office sont aussi souvent initiés et puis gèrent la fortune d'entrepreneurs qui vont, à la différence d'un directeur d'investissement de fonds, d'un analyste, vont pas forcément avoir besoin de modéliser, remodéliser pendant des mois un business plan et des cash flows pour pouvoir se dire si l'investissement est bon ou non. Ils vont pouvoir aussi prendre des décisions basées sur leur vision du marché, du secteur, et puis surtout l'équipe qui est à la barre, le feeling qu'ils vont en avoir. Et ça, quand on fait de l'investissement non coté en private equity, et encore plus à des stades d'amorçage, avant que l'entreprise fasse déjà plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires, c'est hyper, hyper important.
De l'instinct, du feeling, un peu d'entre-gens aussi, peut-être plus d'amplitude pour aller rencontrer, prendre le temps de creuser, parce qu'il y a aussi une volonté d'investir responsable.
Ouais, effectivement, c'est quand même des gens qui ont déjà gagné de l'argent. Ils ont gagné de l'argent, aujourd'hui, alors ils souhaitent ne pas le perdre, ils souhaitent que cet argent puisse continuer à fructifier, hein, évidemment, pour pouvoir le transmettre sur les générations futures, mais ils ont envie de lui donner du sens. Ils ont assez d'argent pour ne pas chercher la rentabilité à tout prix. Ce qui compte d'ailleurs, et c'est aussi dans les décisions, c'est une partie de sécuriser, donc d'aller chercher des investissements qui, d'un point de vue économique, manifestent une capacité à être pérenne plus importante. Donc, par exemple, chez Tudigo, on a régulièrement des family office qui investissent sur les tours de table aux côtés de fonds, aux côtés de business angels, en particulier sur des activités, par exemple, qui ont des actifs. Je prends un exemple, on avait pu avoir la brasserie Lilloise Brickhouse qui a plusieurs restaurants. On avait sur ce tour de table-là, aux côtés du fonds de Pernod Ricard, des family office, par exemple, du fondateur de Betclic, de la famille Ouzé, qui est fondateur des Galeries Lafayette, parce que c'est un investissement sur lequel vous avez des fonds de commerce, vous avez une croissance qui est bonne mais raisonnée, vous avez une rentabilité qui se dégage, et ça, les family office, ils aiment bien.
Long terme, diversification, instinct, on a dit, on a parlé aussi d'impact ou de volonté d'investir responsable. Il y a aussi cette option d'investir en direct ou pas. Je voudrais, comme mot de la fin, Alexandre, qu'on se mette à la place des entrepreneurs et des entrepreneuses qui reçoivent de l'argent de ces family office. Comment c'est d'avoir de l'argent qui vient d'un family office par rapport à un business angel classique ou peut-être un fonds de VC plus court-termiste?
Le family office, il a l'avantage d'être plus gros qu'un business angel, de pouvoir mettre des tickets aussi gros que ceux d'un fonds d'investissement professionnel, mais en étant moins agressif sur notamment sur les conditions de sortie ou l'horizon de sortie, parce qu'il a pas le fonds d'investissement.
Il a 5-7 ans.
Il a 5-7 ans, il faut qu'il liquide les participations. Il a besoin de déployer très vite son argent. Et puis ensuite, il a besoin de vendre les participations pour les ramener aux investisseurs et puis relever de l'argent. Et on en vient à un deuxième point, c'est que justement, ils vont moins du coup presser les entrepreneurs. Et puis, le family office va être en capacité beaucoup plus facilement de réinvestir sur les tours suivants.
Investir et réinvestir.
Et surtout dans le contexte actuel où on voit que les fonds d'investissement ont du mal à lever des capitaux depuis à cause effectivement de la hausse des taux d'intérêt, le contexte général. Le family office, il a moins ce problème et on les voit de plus en plus nous aujourd'hui chez Tudigo sur les tours de table. Donc le family office est capable d'investir, de réinvestir, et ça c'est quand même intéressant pour une entreprise qui est en plein développement, ou peut-être si le plan a un peu dérivé et qu'on n'est pas encore à la cible qui permettrait de faire le très gros tour de table avec un nouveau fonds. Le family office, comme un bon business angel, est là pour pouvoir remettre au pot.
Voilà, Que pouvons-nous retenir des stratégies d'investissement des family office pour vous, pour nous, bon père, bonne mère de famille qui voulons mieux gérer notre argent ou mieux l'allouer ou celui qu'on aura plus tard. Merci beaucoup Alexandre Leng et l'équipe de Tidigo pour ce coaching. Qu'est-ce qui influe sur les décisions d'investissement d'un family office et comment s'en inspirer? Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur le site et l'application BFM Business. Vous restez avec nous, c'est la deuxième partie de Tout pour investir dans quelques minutes. On va parler bagnole et on va parler électrique et on va parler bourse. Quelles sont les performances des pure players en bourse quand on s'intéresse aux véhicules électriques? Qu'en penser en tant qu'investisseur particulier? Mais on va aussi parler PER, plan épargne retraite, et PERP, plan épargne retraite populaire. À suivre dans Tout pour investir. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Bonjour à tous, vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles tous les jours de 10h à midi sur BFM Business. Nous sommes à la radio, nous sommes à la télé et nous sommes aussi en direct sur le web 10h midi et puis n'importe quelle heure du jour et de la nuit en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez peut-être en dehors de nos frontières françaises. Au programme de l'heure à venir, l'immobilier, comme tous les jours, on va zoomer sur l'assurance emprunteur avec l'équipe CAFI et puis Marie Cœur de Roy. Vous savez, cette assurance associée à un crédit, notamment les crédits immobiliers, il y a 16 millions de contrats en France. On va décrypter cela, déchiffrer, rechiffrer cet univers de l'assurance emprunteur dans quelques minutes. Le question-réponse du jour portera sur l'automobile électrique et la bourse. Comment performent les pure players de l'électrique sur les marchés? Les investisseurs, vous, nous, redoutons une guerre des prix et une chute des marges face à l'arrivée de la concurrence chinoise. Qu'en pense Antoine Larry-Gaudry, amateur de voitures et expert financier, et Thomas Veillé d'investir.ch? Réponse à vos questions d'ici une vingtaine de minutes. Et puis aujourd'hui, on investira dans le plan épargne retraite. Vous savez, dans Tout pour investir, on aime bien ce produit parce qu'il démocratise la retraite, il vous force à vous poser la question. Il a déjà séduit 10 millions de Français et de Françaises. Comment expliquer cet engouement? On parlera également du plan épargne retraite populaire et on répondra à Raphaël, un de nos éditeurs qui nous a écrit pour nous expliquer sa situation compliquée. Nous allons répondre éventuellement à vos autres questions, celles que vous allez nous adresser. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr, comme Franck qui nous a déjà écrit au sujet du PER, mais aussi en message privé sur LinkedIn, je vous lis. Nous partons à Euronext faire le point sur notre CAC 40. Écoutez, pas très en forme ce matin. On est vraiment en dessous des 8000 points. Il y a même un gros test autour des 7900 points qui est en cours. Antoine va nous raconter ça.
Votre rendez-vous avec eToro, plateforme de trading et d'investissement. Les traders intelligents choisissent les meilleurs outils.
Cher Antoine, notre CAC 40 s'enfonce davantage. Racontez-nous ce qui se passe depuis une heure.
Oui, une sous-performance notable d'ailleurs par rapport aux autres indices européens. On est en baisse de 0,9%. On est quasiment au plus bas de la séance. 7913, effectivement, on teste les 7900. Désormais, repli un petit peu moins sévère du côté des valeurs techno. L'Euronext Tech Leaders ne perd que 0,28%. Bien noter que c'est très partagé hein, du côté des autres places européennes. On a le DAX à Francfort qui est quasiment à l'équilibre. Une petite baisse de 0,2%, moins 0,6% pour l'Eurostoxx 50. Des marchés un petit peu perdus après un jour férié, hein. Il y a un effet technique notable et puis aussi un petit peu de volatilité autour des résultats d'entreprises qui ont été publiés aujourd'hui. Lendemain de Fed aussi, on a bien du mal à observer et à décortiquer les tendances de dynamique monétaire. On y reviendra dans quelques instants, mais tout ça au final, ça nous donne certains secteurs qui sont attaqués, alors notamment le secteur pétrolier, le secteur énergétique, un Total Energy qui recule de 2,8% à 66,66 €. On a Sanofi, moins 1,6%, 91,5 €. 58, là, pas de chance, on a deux très grosses pondérations du CAC 40 qui tanguent aujourd'hui. Et puis alors le secteur des semi-conducteurs et notamment STMicroelectronics qui perd 2,2% à 36,81 €. C'est vrai qu'on a eu des résultats plutôt convaincants de la part de Qualcomm hier soir après la clôture de Wall Street. Mais avant ça, la veille, on a eu les résultats d'AMD et autant dire que ça a été une douche froide pour l'ensemble du secteur des composants, notamment ceux qui sont exposés à l'IA et à d'autres secteurs qui sont un petit peu en souffrance hein, ces derniers temps en matière de perspective. Donc, du coup, ST Micro perd 2,19% à 36,82€. La plus forte baisse du CAC, elle est pour Stellantis, qui recule de 3,6% à 20,14€. Alors, en revanche, très belle hausse pour Téléperformance, qui gagne 10,2% à 94,20€. L'activité vraiment s'améliore au premier trimestre et c'est salué par le marché. À noter la belle hausse d'Engie, qui prend 2,2% à 15,17€. Et puis, des résultats bien arbitrés. ArcelorMittal, qui gagne 1,4% à 23,92€. Mais on a aussi Imerys, plus 9,5 à 33,16, et Worldline plus 6,79 à 10,47. Le CAC donc moins 0,92, 7,911, et le Rouen dollar 0,710. Lorraine.
Merci cher Antoine, ça va être l'heure de votre histoire hein. Après la Fed et les résultats qui sèment le trouble, nous allons parler stagflation avec vous.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Et oui, parce qu'on entend de plus en plus parler de ce scénario de stagflation. Tiens, on en parlait d'ailleurs lundi avec Thomas Veillé d'Investir. Et la Fed, mine de rien, eh bien, commence à s'en inquiéter, du moins à demi-mot. Racontez-nous ça.
Eh oui, en fait, c'est arrivé pendant les commentaires de Jerome Powell après la décision de la Fed. Décision de la Fed, donc statu quo sur les taux, et statu quo qui devrait se prolonger, puisque le président de la Fed note que les pressions inflationnistes ont bien du mal à se résorber. Et alors, on a eu là-dessus pas mal d'indicateurs qui ont porté de l'eau à son moulin, et notamment l'enquête ADP pour l'emploi du secteur privé qui a été publiée hier, qui montre qu'effectivement, il y a des pointes salariales, et on pourrait justement en avoir confirmation cet après-midi parce qu'on a les chiffres des coûts du travail et de la productivité aux États-Unis et là on pourrait assister au premier trimestre à un léger dérapage du côté des plus 2,3%. Donc confirmation des tendances actuelles, mais parallèlement, juste avant ce rendu de décision de la Fed, on a eu tout un tas d'indicateurs, le PMI manufacturier américain qui repasse sous la barre des 50 points. Vous savez, les 50 points, c'est la ligne qu'il y a entre expansion de l'activité et une baisse de l'activité, vraiment du côté des États-Unis. Là, on passe dessous. On a également du côté des Fed régionales des indicateurs d'activité qui ont tendance eux aussi à décroître. On a également tout un tas d'indicateurs qui montrent véritablement qu'on est peut-être un tournant du côté de l'économie américaine. Et justement, cette enquête ADP de l'emploi privé montre que les embauches sont au plus bas depuis janvier 2018. Sur le mois écoulé. Donc, ça nous donne un cocktail à base de ralentissement économique. Alors, à court terme, on voit que les dynamiques sont quand même plus positives à long terme, mais que justement, ce milieu d'année, cette fin de printemps, commence à sentir légèrement le roussi pour la santé de l'économie américaine. Et parallèlement, des pressions inflationnistes qui ne ralentissent pas. Et tout ça, ça donne un petit mot, c'est stagflation, c'est un mot valise que les marchés, que les analystes commencent à employer pour qualifier la situation. On a Jerome Powell qui, pendant sa conférence de presse, on commençait par là, disait « Oui, j'ai entendu parler de ces histoires de stagflation, je ne vois pas d'où ça sort, compte tenu des indicateurs du moment. » Alors que, précisément, si on les regarde, il y a quand même quelque chose qui commencerait vaguement à ressembler à ça si la situation perdure avec exactement les mêmes dynamiques. Donc on sait que c'est volatile, on sait qu'il y a parallèlement quand même des espoirs de voir la situation s'améliorer du côté des États-Unis, mais ça va être sans doute l'occasion pour les marchés de revoir un petit peu leur scénario. D'ailleurs, concernant d'éventuelles baisses de taux de la Fed, le marché semble avoir écarté dans ses anticipations là pour l'immédiat une absence de baisse de taux avant la fin de l'année. Il y aura une ou plusieurs baisses de taux et a priori, ça devrait commencer dès le mois de septembre, donc higher for longer, mais un tout petit peu. Donc on voit que les scénarios de marché commencent doucement à s'équilibrer. On espère que ça va continuer, sinon la machine pourrait clairement se gripper.
Higher for longer. En tout cas, aux États-Unis, une menace réelle de stagflation. Cette séquence, ce décryptage est à retrouver en podcast et en replay, comme toutes les histoires financières d'Antoine sur notre site et notre application. Antoine, vous restez surtout pas trop loin de votre caméra parce que vous allez nous rejoindre dans un gros quart d'heure pour continuer à parler de bourse. On va spécifiquement s'intéresser au secteur de l'électrique en bourse. Qu'est-ce que ça donne? Comment ça doit vous concerner en tant qu'investisseur particulier? Réponse dans un gros quart d'heure. À tout de suite, Antoine. Pour le moment, c'est l'heure de parler immobilier. Marie-Cœur de Roy, notre invitée, arrive. À tout de suite.
Tout pour investir. La place de l'Immo.
Nous aurions aimé avoir un débat sur les transports parisiens, mais nous allons plutôt nous concentrer sur ce qui vous occupe, cher auditeur. Nous allons parler d'immobilier et en particulier d'assurance emprunteur. Bonjour Marie Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Stéphane Bolelli est avec nous de l'équipe CAFPI. Vous êtes directeur des assurances et déplacements. Vous allez nous parler d'assurance emprunteur et s'il vous plaît, vous allez faire ça de manière sexy. Parce que nous, on aime bien avec Marie ce sujet, parce qu'il est important pour les emprunteurs que nous sommes ou que ceux et celles qui nous écoutent sont. Rappelez-nous un peu de contexte.
Bonjour à tous les deux. Donc l'assurance emprunteur, pour commencer, qu'est-ce que c'est ? C'est l'assurance que vous prenez avec un crédit, généralement un crédit immobilier, et qui vous protège en cas de décès.
C'est une grosse majorité d'emprunteurs sur l'immobilier qui prend une assurance de prêt.
L'immense majorité, oui. Ça vous protège en cas de décès, d'invalidité, donc permanente, ou d'incapacité. Aujourd'hui, c'est un marché qui est capté par les banques. Pourquoi ? Ben, elles vous proposent leur contrat au moment du financement, au moment où elles vous octroient un crédit.
C'est ça, c'est en gros, j'arrive chez mon banquier, je négocie mon taux d'intérêt et parfois j'ai un peu tendance à oublier qu'il faut aussi parfois négocier son assurance de prêt qui va avec. Mais le banquier, lui, se fait un malin plaisir de me dire « bon, c'est le taux d'intérêt qui compte, l'assurance de prêt, hein ?»
Disons qu'au moment du financement, ce qui vous obnubile, c'est votre financement, c'est de sécuriser votre achat immobilier, c'est ça votre projet, et du coup vous vous concentrez généralement en effet sur le taux du crédit et vous prenez l'assurance qui va avec, puisque c'est une très bonne couverture.
Sauf que les tarifs des banques sont quand même toujours nettement plus élevés que chez les assureurs alternatifs.
Alors il y a l'opportunité en effet de faire des économies en passant par un assureur alternatif, en faisant jouer tout simplement la concurrence.
On a parlé d'un marché, enfin pendant des années, enfin moi j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à courir ce secteur depuis une dizaine d'années, qu'on me parle d'un marché à plusieurs milliards d'euros captés avec des banques en quasi-monopole, avec des tarifs pourtant deux à trois fois moins élevés chez les assureurs alternatifs. Et pour cause, on n'a pas ouvert ce marché, on a mis du temps à ouvrir ce marché à la concurrence, il était bloqué. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, comment, dans quelle mesure je peux changer mon assurance de prêt ou en tout cas ne pas prendre l'assurance de la banque ou arrêter de la prendre chez ma banque ?
Alors, le législateur y a beaucoup travaillé. Il y a eu plusieurs lois qui sont passées depuis maintenant 15 ans pour justement ouvrir le marché de la concurrence. Ça a commencé en 2010. Vous pouviez choisir l'assurance de votre choix au moment du financement du crédit. Mais vous l'avez évoqué, Marie, au moment du financement du crédit, on se concentre plutôt sur son projet immobilier, pas forcément sur l'assurance. Du coup, le législateur a évolué. En 2014, nouvelle loi pour vous permettre de changer d'assurance la première année. Mais bon, une fois que vous avez fini les démarches administratives, vous n'avez pas envie de vous y replonger la première année.
C'est ça, on avait 12 mois suivant la signature du contrat pour changer l'assurance de prêt.
Exactement, et on ratait la date. Du coup, 2018, le législateur revient à la charge et vous permet de changer d'assurance chaque année à date anniversaire. Effet limité, pourquoi ? En fait, vous ratez cette date anniversaire. Puis quelle date vous la trouvez ?
Le préavis.
Il y a deux mois de préavis, donc vous ratez cette date-là. Donc 2022, la loi Lemoine. Donc là, vraiment, l'ouverture totale. Je pense qu'on est au bout de la démarche, ça y est. Vous pouvez changer d'assurance maintenant, à tout moment, sans contrainte. Il n'y a plus de notion de préavis, il n'y a pas de date à respecter. Vous êtes totalement libre.
Oui, enfin, on pourrait faire la litanie des lois des gens qui nous ont dirigés. Il y a eu la loi Lagarde, il y a eu la loi Hamon, il y a eu un amendement, Bourquin. Là, maintenant, vous venez de parler de la loi Lemoine. Reste que dans près de 90% des cas, on va toujours chercher l'assurance de sa banque. Donc, c'est que ces lois marchent, en tout cas, pas tout à fait très bien pour l'instant.
Alors, elle fonctionne. Je pense que la loi Lemoine, c'est la bonne. Donc, vous avez raison. Au moment du financement, aujourd'hui, les Français prennent dans 9 cas sur 10, dans 87% des cas, l'assurance de la banque. En revanche, par la suite, ils peuvent changer. Et c'est tout le sens de la loi Lemoine. C'est changé à tout moment, il n'y a plus de date à respecter, on peut vraiment le faire tout de suite.
Stéphane, on va mettre les pieds dans le plat. Parce que là, on tourne autour du pot, mais oui, parce qu'au démarrage du crédit, même si, pour peu qu'on sache, parce qu'il y en a qui ne savent même pas, donc c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, mais même si on sait que potentiellement, on n'est pas obligé de prendre l'assurance de la banque, même si on sait que la banque, elle nous propose des tarifs qui sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs, comme vous le disiez, on est tellement content que la banque nous accorde le crédit, qu'on se dit, je ne dis rien, je prends avec l'idée d'aller ailleurs. C'est à peu près ça l'idée.
Ça existe, bien sûr, vous pouvez faire ça.
Non, c'est pas ça existe. C'est globalement, on le fait soit parce qu'on le sait pas, et quand on le sait, le premier conseil quand même qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est dis oui, et on verra après, parce qu'on a l'opportunité de pouvoir partir après.
Exactement, on peut changer après, et les Français l'ont bien compris. Aujourd'hui, donc on l'a dit, dans 9 cas sur 10, les Français prennent l'assurance de leur banque, et sur le stock de crédit aujourd'hui, c'est que dans 8 cas sur 10. Il y a 8 Français sur 10 qui ont l'assurance de leur banque. Preuve que Il y en a déjà un sur 10 qui a changé.
Qui change en cours de route. Après, moi, ma question, elle est là. Enfin, je rejoins la question de Lorraine. On a eu des lois, en veux-tu, en voilà. Alors, certes, les premières étaient peut-être pas géniales, elles se sont un peu machin. Mais souvent, on nous a dit que les banques ne jouaient pas le jeu. Typiquement, sur la fameuse date anniversaire du contrat, combien on a eu de témoignages qui nous ont dit, mais en fait, pas du tout, ils nous disent non, ils font courir le temps, machin, etc., pour que je rate ma fenêtre de tir. Enfin bon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez sincèrement nous dire que les banques jouent le jeu?
Oui, les banques jouent le jeu. C'est la loi, donc elles la respectent. Alors, pas toujours dans les délais. Par exemple, la loi parle de 10 jours pour finaliser la démarche et émettre l'avenant à l'offre de prêt. D'accord? Donc, bon, les 10 jours ne sont pas toujours respectés.
Ah, ben, c'est pas toujours, hein. C'est, je crois, de mémoire, 17% des banques qui respectent, je crois que c'est un délai de 11 jours. Et c'est 17% des banques qui respectent ce délai de réponse.
Ça peut prendre quelques semaines de plus, mais globalement, si vous êtes bien accompagné par un professionnel qui fait les démarches correctement, qu'on voit la lettre recommandée, la bonne adresse, etc., ça se passe très bien en plusieurs semaines.
D'accord, mais bon, déjà sur les délais, il y a d'autres trucs dont on parle. Alors, ça va être un peu technique pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, mais on va le dire.
Pas trop.
Quand vous arrivez, pas trop, mais sauf que c'est la clé, en fait. Pour pouvoir changer d'assurance de prêt en cours de route, il faut que la nouvelle assurance vous apporte des garanties au moins équivalentes que la première assurance de prêt, ce qui est logique, puisque la banque vous accorde le crédit immobilier. Très bien. Et donc, ce dont on nous parle, c'est des banques qui nous feraient signer au démarrage du crédit une assurance de prêt avec des garanties pas forcément nécessaires et peu substituables. Est-ce qu'il nous bloquerait avec cette assurance-là, rendant complètement impossible le changement pour la concurrence? Vous le constatez, ça?
Disons que ce qui a été mis en place, c'est des critères d'équivalence, de manière à pouvoir comparer les contrats entre eux et dire si oui ou non deux contrats sont équivalents. Donc il y a 18 critères principaux qui ont été identifiés. D'accord, la banque peut en retenir 11 parmi ces 18 critères. Les acteurs alternatifs, hein, comme CAFPI, voilà, les courtiers, ont une gamme de contrats qui respectent tous les 18 critères, de manière à toujours être capable de substituer en fait, le contrat de la banque avec un contrat alternatif. La banque peut retenir 11 critères, généralement elle en retient moins, parce que son propre contrat respecte moins que 11 critères parmi les 18 critères d'équivalence qui ont été définis. Mais si vous respectez bien les critères d'équivalence, vous pouvez changer d'assurance.
Non, mais Stéphane, on en a parlé hors antenne, mais par exemple, tous les trucs de garantie de perte d'emploi, il y a certaines banques qui proposent des garanties de perte d'emploi qui d'abord ont assez peu de sens. Parfois, ça va jusqu'à la fin de la durée du crédit et non pas jusqu'à la fin de la vie active. Je prends un exemple de quelqu'un dont le crédit courrait jusqu'à ses 75 ans, par exemple. On sait bien qu'à 70 ans, a priori, il n'est plus au travail. Et pour autant, on a cette garantie perte d'emploi qui court jusqu'à la fin de la durée du crédit. Si moi, emprunteur, je vais chercher une assurance alternative et que cette garantie-là, on me la propose, mais à un coût énorme parce que, pour le coup, c'est des garanties qui coûtent très cher pour les assureurs alternatifs, bah, ça veut dire qu'en fait, j'ai aucun intérêt à passer à la concurrence et je me suis fait piéger au démarrage de mon crédit quand même.
En fait, tout va dépendre si la banque que vous avez choisie pour votre financement a retenu la perte d'emploi comme un critère d'équivalence. Si elle l'a retenu comme un critère d'équivalence, donc c'est 8 critères de plus par rapport aux 18 que j'évoquais précédemment, vous devez apporter un contrat qui apportera...
Mais on est d'accord que ça me piège. On est d'accord que ça me piège.
Disons que chacun joue un petit peu avec ses armes pour retenir et capter la clientèle. Mais maintenant, c'est au courtier de justement apporter un contrat équivalent et qui répond du coup à ses demandes de garantie de perte d'emploi.
Et il faut qu'on finisse ce question-réponse sur l'assurance emprunteur en parlant du questionnaire de santé. Parce que c'est un sujet qui concerne particulièrement ceux et celles qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte autour de ces questionnaires de santé, Marie?
C'est qu'on a défini en même temps, c'était la loi Lemoine. Alors, c'était le côté positif ou négatif. Enfin, bon, ça dépend de quel côté on se place. Pour les crédits à moins de 200 000 euros, on n'a plus de questionnaire de santé. Alors pour ceux qui ont des petits problèmes de santé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour ceux qui n'en avaient pas, en revanche, c'est pas forcément une bonne nouvelle puisqu'il existe ce qu'on appelle la mutualisation des risques. Et donc si je ne sais pas si mon emprunteur est en bonne santé ou non, j'aurais tendance quand même à peut-être un tout petit peu booster les tarifs pour me couvrir au mieux. Est-ce que c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui? Est-ce que finalement, cette bonne nouvelle qui était la disparition du questionnaire de santé pour ces crédits-là, est-ce que finalement ça s'est pas retourné contre les emprunteurs avec une hausse des tarifs?
Alors je vais répondre, ça dépend. Alors pour être très précis, il n'y a plus de questionnaire de santé si le crédit de moins de 200 000 euros, enfin si vous êtes assuré sur moins de 200 000 euros, et si vous avez moins de 60 ans à la fin du crédit. Donc, dans ce cas-là, en effet, on n'a plus le droit de poser de questions de santé pour souscrire à un contrat d'assurance emprunteur. Il y a des partenaires, nous on a des partenaires qui n'ont pas augmenté leurs tarifs, pas d'un centime. Donc, tant mieux pour les gens concernés. D'autres acteurs ont été contraints d'augmenter leurs tarifs de l'ordre de 15 à 20% en fonction des acteurs.
C'est pas indolore, hein.
C'est pas du tout indolore, mais ça reste très compétitif par rapport à des contrats bancaires.
Vous parlez juste d'un aspect compétitif, il nous reste une minute. Vous nous donnez un exemple d'économie possible pour bien que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent se rendent compte de l'intérêt de se pencher un petit peu plus sur l'assurance de leur prêt.
Alors, c'est colossal, hein. Si vous prenez un cas, je dirais, classique d'un couple de trentenaires non cadre, employé, voilà, non fumeur, qui emprunte 250 000 euros, ils peuvent passer de 30 000 euros d'assurance à 8 000 euros d'assurance, donc plus de 20 000 euros d'économie sur la durée totale du crédit. Alors par rapport à un projet immobilier, on ne le voit pas forcément passer, mais en fait 20 000 euros, quand on prend du recul, c'est colossal. C'est une voiture électrique, c'est des travaux, c'est l'étude des enfants.
La pièce qu'on a perdue.
C'est la pièce qui manque. Donc c'est vraiment l'opportunité de faire des grosses économies. Et là, je prends un cas moyen, mais dans les grandes villes où l'immobilier est très cher, quand vous empruntez 400-500 000 euros, on passe sur des économies de 50 000 euros. Donc ça vaut vraiment le coup de comparer le tarif et évidemment les garanties.
Et n'oubliez pas de regarder votre contrat au démarrage du crédit. Vraiment, j'insiste là-dessus. Regardez les garanties que vous signez. L'enjeu, ce sera de pouvoir trouver des équivalences avec des tarifs compétitifs à la suite si vous voulez changer d'assurance de prêt.
Voilà. Décryptage de l'assurance emprunteur, c'est important, ça vous concerne. C'est 16 000 contrats. Hein.
16 millions de contrats.
16 millions, pardon.
Ouais, 16 000, ça me paraît.
16 millions de contrats en France.
16 millions de contrats.
Ça fait un peu de monde concerné.
10 millions de ménages. Un tiers des ménages en France ont un crédit immobilier et 80% ont encore l'assurance bancaire.
Voilà. Challengez votre banque. Parfois, il y a des banques qui sont très compétitives, il faut le dire. Challengez.
Elles ont même baissé leurs tarifs, ça c'est vrai. Elles ont baissé leurs tarifs depuis l'ouverture à la concurrence, précisément.
Massivement. Et parfois aussi, elles proposent une réduction tarifaire, voilà, pour retenir les clients, ce qui est une très bonne chose. C'est au bénéfice du client.
Les frais. Christian Fontaine du Revenu serait fier de nous. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Marie Cœur de Roy, qu'on retrouve demain, parce que demain c'est vendredi. Et oui, on a toujours l'impression d'être lundi.
Et ça faisait tellement longtemps que je vous propose de parler rénovation demain.
Oui, parce qu'il y a plein de choses qui changent à partir de la semaine prochaine. Demain dans les experts de l'immobilier, à retrouver dès 11h15, nous avons une demi-heure dédiée à la rénovation. On va parler DPE, on va vous apporter des réponses concrètes sur comment prendre en main votre chantier, comment trouver votre financement, comment trouver les bonnes personnes pour rendre votre habitat ou votre investissement immobilier en meilleure forme. Merci beaucoup Stéphane Bolelli et l'équipe de CAFPI pour ce topo assurance emprunteur assez sexy. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Non, mais on dit ça sur un ton sérieux, sur un ton avec le sourire, mais c'est important ce sujet d'assurance emprunteur. Vous nous avez rappelé les économies qu'on peut faire qui peuvent servir à financer d'autres choses quand même que payer des assurances trop chères. À suivre, on va s'autoriser un petit moment respiration électrique. On va parler auto électrique, secteur de l'électrique en bourse. Qu'est-ce que ça donne, les pure players, la concurrence chinoise. Vous, en tant qu'investisseur dans ce secteur, à suivre avec nos deux experts marché, mais aussi automobile, Thomas Veillet depuis la Suisse et puis Antoine-Marie Gaudry depuis Euronext. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles, on zoome sur certains secteurs. Dans les prochaines minutes, on va s'intéresser à l'électrique, à la voiture électrique. En bourse, qu'est-ce que ça donne? Et on fait ça avec deux experts que vous connaissez bien sur notre antenne. D'abord, Antoine Larigaudry depuis Euronext qui est branché une grande partie de la matinée avec nous. Rebonjour Antoine. D'aucuns ne savent pas,
bonjour.
Mais vous êtes fan de voitures, en plus de votre expertise boursière incommensurable. Et donc, on va essayer de dérouler une vraie pensée avec votre équivalent suisse, Thomas Veillet, que nos auditeurs fidèles connaissent. Vous êtes souvent avec nous le lundi. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Thomas, vous êtes chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur et puis surtout une des plumes du site investir.ch. Vous aussi, vous êtes très fort en bourse et vous êtes aussi passionné de voitures. Vous êtes le meilleur duo pour aborder ce sujet de l'électrique en bourse. Parce que oui, vous le savez, la bourse suit et corrélée évidemment à ce que font, s'intéresse de près à ce que font les constructeurs automobiles. On va essayer de faire un tour d'horizon. On va parler des entreprises qu'il faut suivre, on va parler des performances des pure players en bourse, on va parler de la concurrence chinoise et on va aussi parler des performances peut-être des acteurs français. Stellantis, on va parler aussi un petit peu de Renault et aussi au niveau Europe, de Volkswagen, certains groupes qui finalement choisissent de ne pas rentrer en bourse. Qu'est-ce que ça dit de ce secteur et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ultimement, investisseurs particuliers? Antoine, si vous voulez bien, on va commencer par vous. J'aimerais que vous me disiez quelles sont les entreprises que vous surveillez de près en bourse. Quand on parle voiture, véhicule électrique et marché, de qui parle-t-on?
Alors évidemment, c'est difficile de passer à côté de Tesla. Attention, Tesla, c'est très particulier. Quand on achète Tesla, vous savez, c'est une structure financière assez baroque, hein, finalement. On achète un bout d'Elon Musk et ça veut bien dire ce que ça veut dire. On achète un bout d'Elon Musk, effectivement. On achète aussi, d'une certaine manière, un petit bout de Twitter. On achète un petit bout de SpaceX. On achète un petit bout des actifs solaires et d'ingénierie électrique. Et on achète accessoirement un petit peu de Bitcoin. Donc, est-ce que Tesla est rigoureusement un pure player de la voiture électrique? On en est à se poser la question. Non, bah, Tesla, voilà, on achète du Elon Musk, hein, très clairement, quand on achète du Tesla. Mais enfin, ça reste, à l'heure actuelle, une forme de baromètre de l'automobile électrique et de sa santé. Les pure players du côté des États-Unis, on les connaît aussi, et le ménage commence à être fait. C'est vrai qu'on connaît Lucid, hein, qui a à son tour de table aussi un gros morceau qui s'appelle l'Arabie Saoudite, hein, via des sociétés d'investissement d'État. On a aussi Rivian, qui est un rival assez intéressant, parce que c'est le pick-up électrique, mais parallèlement, c'est aussi la fabrication d'engins de livraison électrique pour Amazon, donc très gros contrat. On a également VinFast, hein, le constructeur vietnamien qui est venu ce côté du côté du Nasdaq. Il y a NIO, constructeur chinois qui est venu aussi ce côté du côté des États-Unis. Donc on regarde un peu tout ça en bourse, parce qu'il faut bien dire que côté européen, on a surtout des constructeurs généralistes qui font de l'électrique et qui ont bien du mal à le valoriser, ou bien du mal ne serait-ce qu'à le structurer, quitte à vouloir ensuite, après l'introduire en bourse, et c'est le cas de Renault, qui a mis au calendrier grec son projet d'introduction d'Ampère. Donc vous voyez, c'est un paysage assez disparate, fait de purs players. Mais alors, il ne faut pas avoir peur de perdre de l'argent quand on mise en bourse dessus, parce qu'ils ont un bilan boursier assez catastrophique sur les 52 dernières semaines. Ou alors, des constructeurs généralistes, ben, finalement, qui ont ce mérite de financer la transition vers l'électrique par des ventes de voitures thermiques ou hybrides, hein, bien sûr. Mais c'est ces constructeurs généralistes-là qui, peut-être, sont le plus à regarder du côté de l'investisseur particulier, à moins d'avoir vraiment une logique d'investisseur dans une start-up qui n'est pas prêt à perdre de l'argent dessus.
Thomas Veillet, comment vous complétez le tour d'horizon d'Antoine en termes d'acteurs à suivre, et votre regard peut-être sur la dualité entre, d'une part, les pure players et les généralistes qui financent leurs innovations électriques grâce au thermique?
Oh, c'est difficile d'en rajouter, tout est dit. Je crois que tout est dit, le tour d'horizon est parfait. J'ajouterais effectivement qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un monde atypique, puisque d'un côté, on a Tesla, où comme il l'a très bien dit, Tesla est une marque hybride, où finalement, c'est pas que Tesla, mais c'est ce qui représente le mieux la voiture électrique, et tout le reste sont ceux qui arrivent derrière. La grande question aujourd'hui, c'est que les gros acteurs électriques viennent surtout du côté de la Chine, et ceux-ci, pour l'instant, ils sont pas forcément très très intégrés dans nos régions aujourd'hui en Europe, parce que problématique d'import-export. Et puis il y a aussi toute cette confiance du côté, est-ce que vraiment j'ai envie de rouler dans une voiture chinoise? Ça reste encore très bloqué de ce côté-là. Mais après, le reste, c'est vrai qu'aujourd'hui les performances sont catastrophiques globalement. Même si Tesla vient de rebondir violemment après plus des espoirs que de la réalité vraiment en termes de performance, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on peut se poser la question de savoir si ce secteur, enfin moi j'irais peut-être un peu plus loin en me disant, mais est-ce que réellement la voiture électrique, c'est l'avenir? Parce que on voit aussi que depuis l'arrêt de certaines subventions dans certains pays, les gens sont moins friands de voitures électriques et se repositionnent un petit peu plus sur l'hybride, qui a d'autres avantages que d'avoir uniquement une motorisation électrique. Et donc il y a un peu un changement de paradigme qui est en train de se faire. Alors la grande question, c'est quid de l'avenir? Et est-ce qu'aujourd'hui vraiment on a envie de prendre un pari? Et je regardais un petit peu les différents concurrents. C'est clair qu'aujourd'hui, aller se positionner sur un Rivian, par exemple, ou un Lucid, il faut avoir beaucoup de courage. Parce que je ne sais pas si vous avez croisé beaucoup de Rivian ou de Lucid dans vos rues aujourd'hui, moi pas. Donc c'est aussi cette représentation où c'est quand même un marché qui est extrêmement confidentiel. Tesla, on voit bien qu'ils sont partout, mais c'est à peu près les seuls qu'on voit partout en voiture 100% électrique. Ou alors, effectivement, ces nouveaux constructeurs, enfin, ces constructeurs historiques qui ont tous créé leur division électrique avec des succès plus ou moins mitigés en fonction des différentes marques.
Antoine Larigauderie de Puronext, vous le soulignez souvent, ce qui est fascinant avec Tesla, ou ce qui est en tout cas remarquable, c'est qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de modèles de voitures. Nous, on est à Paris. À Paris, on voit beaucoup, beaucoup de modèles 3, quelques modèles X, mais voilà, il n'y a pas plusieurs sous-modèles à l'intérieur de ces lettres, on va dire. Et ça, c'est quand même remarquable. Qu'est-ce que ça dit du futur de la marque? Qu'est-ce que ça dit? En fait, on est sur un marché complètement homogène, notamment en France, où finalement la voiture électrique doit s'arrêter à la Tesla?
Ben, disons que c'était la stratégie de base d'Elon Musk, et en ça il n'avait pas tort, parce que le succès vraiment est incontestable, d'avoir une gamme resserrée autour de quelques modèles, une voiture moyenne, un SUV moyen, une grosse voiture, un SUV gros, et éventuellement à côté le Cybertruck, mais qui fait vraiment pâle figure comparé aux autres chiffres de Tesla, parce que c'est vraiment du flux. Le Cybertruck, ça tient vraiment de l'expérimentation. Maintenant, la stratégie, elle a été payante. Cela dit, Tesla, ils sont comme tout le monde, et Thomas Veillet l'a bien dit. Il y a le plafond de verre, et ça fait des semaines qu'on en parle, ce plafond de verre d'adoption de l'électrique au sein de l'industrie automobile, au sein de la clientèle automobile. C'est-à-dire que les early adopters, ils ont fait leur marché. En plus, Tesla, ils ont une logique vraiment communautaire là-dessus, et qui a très très bien marché aussi. Simplement, on en arrive aux limites du taux de pénétration possible de l'électrique au sein de la clientèle automobiliste, parce que au-delà, ben, on en vient à des considérations de prix, de praticité, d'intérêt économique. Il y a des gens qui n'ont absolument pas besoin de véhicules électriques. On ne va pas les faire passer à l'électrique de force. Donc tous ces gens-là, ben, ils commencent véritablement à constituer un plafond de verre sur l'industrie de l'automobile électrique. Et une fois qu'on a le plafond de verre, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a guerre des prix. Et quand on a une gamme qui est aussi peu développée que celle de Tesla, alors c'est vrai que lors de la dernière présentation des résultats, Elon Musk a promis de nouveaux modèles, et en particulier a commencé par une petite citadine aux alentours des 20 000 $, qui sera la petite Tesla, dont on entend parler depuis 2-3 ans, hein, et qu'on ne voit pas venir. Il y avait aussi la sportive, le Roadster, qu'on attend toujours. Vous voyez, tout ça est assez diffus, et pour l'instant, on a surtout l'impression que Tesla bataille pour au moins conserver ses parts de marché sans trop rogner sur ses marges, ce qui est difficile, tout en essayant de conquérir un petit peu plus d'automobilistes. Mais ça, c'est un chantier encore plus difficile, je pense.
Il y a quelques mois, en début d'année, Elon Musk a parlé déjà de la concurrence chinoise, et ça refroidissait pas mal les investisseurs. Il disait, s'il n'y avait pas de barrière commerciale, les constructeurs chinois démoliraient toutes les autres entreprises du marché. Cette concurrence chinoise, elle est notamment incarnée par BYD. Comment on regarde BYD en bourse, Thomas Veillet? Et BYD, il me semble, dans laquelle Warren Buffett est investi.
Était investi, je crois qu'il a réduit une partie de son exposition récemment. Mais effectivement, la concurrence chinoise est extrêmement présente, tout simplement parce que finalement, la réflexion d'Elon Musk aussi par rapport à la structure de Tesla, on l'a dit, avec très peu de modèles, et finalement très peu de diversification au niveau des différentes voitures, va vers une espèce d'homogénéisation du système. Et finalement, les Chinois sont très compétents pour ça, pour venir avec des voitures très bon marché. Donc aujourd'hui, si vous avez plus d'intérêt, j'ai envie de dire, ludique ou passion, qui est quand même quelque chose de très attaché à l'automobile, eh bien, vous allez vous acheter simplement une voiture qui va vous coûter 10 000 $ chez BYD, parce que les modèles bon marché sont nettement bon marché que ce que Musk promet d'offrir ces prochains temps. Ce qui fait que finalement, c'est quelque chose qui risque d'être, si ça devait se produire, mais je ne vois pas non plus arriver dans cette direction, c'est quelque chose qui sera très très important à surveiller ces prochaines années. Mais bon, moi, quelque part, du côté passion automobile, je crois que c'est quelque chose qui est toujours assez symptomatique, c'est que l'automobile reste un truc qui est un truc de passionné. Les gens aiment la voiture, c'est comme ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance, je suis aussi partiellement journaliste automobile, donc j'en ai testé pas mal. des électriques et des non électriques, et je peux vous dire que je reviens toujours à des moteurs normaux, des moteurs thermiques, à la limite de l'hybride, mais c'est vrai que le côté 100% électrique pose encore des problèmes de limitation, de déplacement tout simplement. On n'est pas encore 100% rassuré au niveau de la batterie. On sait tous qu'au niveau de l'autonomie, ça reste un stress permanent, où on ne sait jamais si on va arriver à domicile ou à destination, et on a eu plusieurs exemples de tests qui ont été faits où on se rend compte que pour l'instant, ce n'est pas encore 100% fiable. Alors, déjà, si on fait sauter les barrières tarifaires, c'est clair que toutes les marques européennes et américaines vont se faire vraiment détruire par les Chinois, ça c'est une quasi-certitude. Sauf le seul point que je mettrais en suspens, c'est comment est-ce que le consommateur occidental va lui passer volontairement à la voiture chinoise. Qu'est-ce qui va lui apporter, qu'est-ce qui lui donnera envie d'aller acheter cette voiture en dehors du prix. Aujourd'hui, on voit aussi, il y a aussi une question de recul, parce que les voitures électriques sont quelque chose de relativement récent, et on voit quand même qu'aujourd'hui, cette nouveauté pose des limites. Quand vous voyez les tests aussi, après 4-5 ans sur les Tesla, c'est catastrophique. Au niveau du vieillissement de la voiture, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, il y a pas mal de questions qui vont se poser au fur et à mesure des années là-dessus, et effectivement, l'arrivée des constructeurs chinois, on en parle beaucoup, mais de nouveau, moi, j'en ai pas encore touché une, ni vu une, physiquement.
Vous n'avez pas encore conduit la nouvelle Xiaomi SU7 ?
Non, je crois que même si on me la proposait, je pense que je serais en vacances à ce moment-là.
Bon, pas de commentaires. Je vous donne quelques chiffres quand même. Tesla a livré plus de 1,2 million d'exemplaires de son modèle Y en 2023. Ça fait de ce modèle le véhicule le plus vendu au monde. La Xiaomi SUV dont on vient de parler a été commercialisée il y a quelques semaines. Elle veut concurrencer plutôt la modèle 3 de Tesla et la NIO ET5, si je ne dis pas de bêtises. Ça serait ça en équivalent de gamme. On est sur des voitures autour de 30 000 euros. Je voudrais finir cette séquence, messieurs. On parle d'automobile électrique et de bourse. Un mot peut-être, Antoine, pour vous. Renault et Volkswagen qui repensent leur entrée en bourse. Qu'est-ce que ça dit aux investisseurs particuliers qui nous écoutent et qui nous suivent ?
De l'impossibilité de valoriser très très clairement où va la voiture électrique en termes économiques. Et ça, Luca De Meo en a bien fait l'aveu en ajournant l'introduction en bourse d'Ampère. Volkswagen, c'est vrai que c'est sans doute le constructeur qui a le plus investi sur les 10 dernières années pour la transition vers l'électrique, mais lui aussi se retrouve face à ce fameux plafond de verre. En plus, c'est vrai qu'il y a toute cette histoire de concurrence chinoise. Après, il faut voir comment on la gère. C'est vrai que Stellantis, par exemple, a eu le nez creux. Vous savez, ils ont investi 5%. Ils ont investi pour acquérir 5% de Leap Motors, qui est un constructeur chinois qui fabrique la TO3. J'ai eu la chance de l'essayer d'ailleurs pour BFM Auto, qui est une petite voiture électrique citadine, sans trop de prétention, mais très efficace. Et puis surtout, qui a le mérite d'être pas cher et rentable à fabriquer. Parce que c'est aussi ça le problème des grands constructeurs européens, c'est à quoi bon fabriquer des voitures sur lesquelles on va perdre de l'argent. Donc là, ils ont pris 5% du capital de Leap Motors et obtenu l'autorisation de fabriquer la petite TO3 dans des usines en Italie. Alors bon, autant dire que ça a provoqué un tollé, mais finalement c'est peut-être la meilleure des solutions, c'est-à-dire au lieu d'avoir peur de la concurrence chinoise, de se dire « mais ces gens-là vont nous détruire », Non, c'est de travailler avec eux pour le développement de certains véhicules dont on a besoin sur le marché. Parce que le but ultime, c'est quoi ? C'est de décarboner le parc automobile européen, qu'on le veuille ou non. Et ça paraît être une bonne solution et un bon système de gestion. Maintenant, on le voit, c'est aussi le reflet des errements qu'on a à valoriser les activités électriques au sein des constructeurs généralistes. Ça aussi a trait au fameux plafond de verre commercial dont je vous parlais, mais aussi au changement réglementaire. Ça change tous les 4 ans, quasiment toutes les mandatures présidentielles ou du côté des politiques européennes en termes d'incentives, en termes de réglementation. Donc tout ça est très très compliqué à valoriser et pour l'instant, les constructeurs, ils se replient sur le thermique et sur l'hybride. Parmi les derniers résultats que j'ai vus, quand même les plus prometteurs et les plus intéressants, c'est peut-être bien ceux de Ford, qui a quand même fait beaucoup mieux que le consensus et qui a signalé que justement, plutôt que d'aller à tête baissée vers l'électrique, ils ont bien vu que leur vente sur le Mustang Mach-E, c'était plus ça, après 2 ans de commercialisation, ils font retomber le soufflet et ils mettent les bouchées doubles sur l'hybride en se rendant compte que la transition sera sans doute beaucoup plus longue que prévu.
Merci Antoine. Thomas, le mot de la fin, pour ceux qui voudraient miser en bourse de manière très passive sur le secteur auto, est-ce que vous recommandez les ETF sur l'auto électrique ?
L'avantage des ETF sur le secteur électrique, c'est que quand vous regardez un peu la composition de ces ETF, à l'intérieur, vous n'avez pas que de la voiture électrique. Donc, ce n'est pas un pur player, parce que sinon, vous aurez 80% de Tesla et pas grand-chose d'autre. Mais là-dedans, vous avez de la batterie, vous avez de la technologie de batterie, la technologie de moteur électrique qui peut être appliquée à d'autres choses. Donc, ça vous permet de vous diversifier. Perso, je reste intimement convaincu que pour l'instant, ça peut être un pari à prendre, mais d'abord en restant extrêmement parcimonieux en termes de taille, parce que je veux croire que la voiture électrique n'est pas encore vraiment optimale. On doit régler des problèmes d'autonomie, on doit régler des problèmes de batterie, et tant qu'on n'aura pas ce genre de règlement, d'amélioration, en tous les cas, les gens ne vont pas avoir confiance. Mis à part les gens comme moi qui sont trop vieux peut-être pour dire moi je mettrai jamais de l'argent dans une voiture électrique parce que j'ai besoin d'entendre un moteur, en dehors de ça, le stress de rouler, et pour avoir fait des tests dans les montagnes suisses avec un Model X, le stress de pouvoir espérer éventuellement trouver un superchargeur quelque part, c'est épuisant nerveusement. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pour ça que faire un pari d'investissement aujourd'hui, de dire dans 5 ans les voitures électriques auront pris le dessus sur le reste, j'y crois pas du tout. Donc l'ETF aujourd'hui est diversifié, soit, mais vous prenez quand même un gros risque, parce que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde la performance de sociétés comme Rivian ou comme Lucid, qui sont des purs players voitures électriques, parce que Tesla c'est pas que de la voiture électrique, eh bien on voit quand même qu'ils ont été tellement bas que c'est difficile d'imaginer qu'ils aillent plus bas, ou alors ils vont faire faillite. C'est la seule possibilité qui reste. Donc le risque est quand même extrêmement présent, mais au moins vous pourrez dire que vous avez la diversification. Mais je pense que ça peut aussi être un château de cartes, parce que si tout d'un coup on voit effectivement, comme le disait Arnaud, on va pivoter à un moment donné sur peut-être plus de l'hybride comme l'a fait Ford. Et à ce moment-là, si tout d'un coup tout le monde va sur l'hybride et puis se dit ben moi je suis plus à l'aise avec un hybride qu'avec un 100% électrique, eh ben ça peut faire un peu l'effet château de cartes et tout le monde va s'effondrer au fur et à mesure. Et c'est ce qui me fait un tout petit peu peur de ce côté-là. Alors je suis évidemment pas un avocat de la voiture électrique parce que j'aime pas, soyons très francs, mais voilà, le risque pour moi c'est vraiment ce fait que tout d'un coup on se dise ah non mais c'est pas possible, c'est pas jouable. Et si vous regardez les quelques, on va pas rentrer dans le débat des batteries, mais quand on voit les métaux rares qu'on extrait pour mettre dans les batteries et d'où ça vient et comment ça se présente, il y a un autre débat qui peut être levé sur ce sujet-là aussi.
Eh bien, on l'aura, ce débat, dans une prochaine émission, si vous voulez bien, tous les deux, ce sujet de la voiture auto, de la performance en bourse, le long terme. Est-ce que l'électrique est l'avenir de la voiture ? Finalement, c'est presque cette question qu'on s'est posée. Est-ce que l'électrique peut être l'avenir de la voiture ? Merci beaucoup, Thomas Veillé, de l'équipe Investir.ch, depuis la Suisse. Et merci, Antoine Larry-Gaudry, de l'équipe BFM Business, depuis Euronext, la Défense. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Vous avez aimé ce sujet ? Vous aussi, vous avez des questions sur la voiture électrique et la bourse, adressez-les-nous, on tâchera d'y répondre dans un prochain duo avec nos experts marché et auto. À suivre, on s'occupe de votre PER avec Bastien Baron.
Tout pour investir, investir autrement.
Vous le savez, le plan épargne retraite a séduit beaucoup de Français, 10 millions, 100 millions d'encours. Comment on explique cet engouement avec nous? Notre gestionnaire de patrimoine, Bastien Baron. Bonjour Bastien.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes aux manettes de Justae Gestion Privée. Une question toute simple. Le sujet PER, plan épargne retraite, vous l'avez souvent avec votre clientèle plutôt fortunée ?
Souvent oui, on l'amène pour différentes problématiques, pas forcément uniquement la retraite. On peut avoir des sujets de défiscalisation également qui vont intervenir avec potentiellement des sauts de tranches qui vont arriver à la retraite. Donc des clients qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui vont forcément normalement en gagner potentiellement moins à la retraite et vont déjà obtenir un gain fiscal en fait là-dessus. Et le cas qu'on a aussi énormément en fait, c'est sur la partie protection du conjoint, parce que là finalement en fait, on s'en sert un petit peu comme assurance décès, prévoyance, etc. Et principalement protection du conjoint. Pourquoi ? Parce que depuis 2007, la loi TEPA, le conjoint est exonéré de droits de succession. Et finalement, un foyer en fait, qui va épargner aujourd'hui dans un plan épargne retraite et va bénéficier de 41-45% d'avantages fiscaux selon sa tranche marginale d'imposition, le seul moyen finalement de ne pas repayer une partie de ce gain à la sortie, parce que lorsqu'on sort du plan épargne retraite, ça va s'ajouter à nos revenus à la retraite et donc on va être refiscalisé, on va être fiscalisé à ce moment-là, c'est s'il y a décès. Et s'il y a décès pour une personne qui est exonérée comme le conjoint survivant, bah finalement, en fait, personne ne repaye ces 41 ou 45% d'avantage fiscal qu'on a eu à l'entrée. Donc, nous, on s'en sert aussi comme un petit peu comme voilà, assurance décès, protection du conjoint, de ce point de vue-là.
Défiscalisation, solution de prévoyance, assurance décès, protection du conjoint. C'est pas forcément les usages auxquels on pense le plus quand on parle du PER, surtout cette semaine où on a tous célébré, enfin les médias ont beaucoup célébré le succès de ce plan. Est-ce que vous pouvez nous toucher un tout petit mot du PERP ? Alors le deuxième P étant pour populaire, on en parle moins. Il est moins populaire, ce plan épargne retraite populaire.
Tout à fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y avait le terme populaire dedans, alors que ça ne l'était pas vraiment, parce que c'est... comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, l'argent qu'on va verser dans un plan épargne retraite populaire ou dans un plan épargne retraite par ailleurs, ça va se déduire des revenus, de notre revenu imposable. Donc en fait, plus on est dans les tranches hautes, donc plus on gagne beaucoup d'argent, plus c'est intéressant. Donc finalement, ce n'était pas réellement populaire.
Ce n'est pas un outil pour les CSP moins ou les gens à revenus moyens.
Ouais. Bah non, parce que quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, déjà, il n'a aucun intérêt d'investir dans un plan épargne retraite, qu'il soit PERP ou non. Et le PERP, en fait, a été remplacé progressivement par le plan épargne retraite, donc le PER, à partir de 2019. Donc là, c'était la loi Pacte, en fait, qui a été promulguée. Et donc là, la grosse différence, pourquoi c'est moins intéressant ? Un gros sujet, en fait, c'est que les Français avaient beaucoup de mal sur le système de rente. C'est-à-dire que le PERP, quand on voulait récupérer son argent à la retraite, on pouvait récupérer jusqu'à 20% en capital et le reste sous forme de rente. Ça plaisait pas beaucoup. Le plan épargne retraite aujourd'hui, il a quand même révolutionné tout ça sur la partie individuelle. C'est-à-dire qu'on a la main pour récupérer 100% en capital dès qu'on a l'âge légal de départ en retraite, ou on peut attendre pour le débloquer. On peut en prendre une partie tout de suite et en reprendre une partie derrière. On peut toujours partir sous forme de rente si c'est la solution qui nous intéresse. Donc c'est beaucoup plus souple. Et en fait, c'est ça qui a permis aussi, je pense, quand on voit les chiffres aujourd'hui. Et c'était pas 100 millions, c'est 100 milliards d'encours.
Donc, j'ai dit 100 millions, ouais, pardon. 100 j'ai un gros problème entre millions et milliards cette semaine. Je présente mes excuses aux auditeurs. 100 milliards, pardon, d'encours, ouais, évidemment.
Donc les montants en fait, sont assez importants et ça devrait continuer dans ce sens-là. Surtout que le sujet de la retraite... c'est un vaste sujet déjà depuis quelques années. On a fêté les 1 an aussi de la réforme des retraites.
Absolument. Voilà. On a Thibaut qui a 30 ans et qui nous demande si c'est une bonne idée d'ouvrir un PER. Je pense que la réponse, c'est oui. À partir du moment où vous payez un peu plus que 10% d'impôts.
Exactement.
On va dire que c'est ça. Et on a surtout une question en une ou deux minutes, si vous pouvez, mon cher Bastien, répondre en tout cas à Raphaël qui nous a écrit. Il avait 2 PERP depuis quelques années. Il a fait une demande de sortie anticipée dans le cadre du déblocage pour situation exceptionnelle, parce qu'il y a quelques situations exceptionnelles qui permettent de débloquer. En l'occurrence, pour lui, c'était l'expiration de ses droits aux allocations chômage. Il a bien été remboursé par son assureur, mais certaines sommes ont été amputées. On lui a prélevé des cotisations sociales sur les montants retirés et pourtant il ne s'y attendait pas. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre en quelques phrases ?
On peut lui répondre effectivement en fait qu'il y a des c'est un vrai sujet en fait, la partie sortie anticipée en cas de fin des allocations chômage. Il faut savoir que ça fonctionne déjà uniquement quand c'est suite à un licenciement.
Ouais.
Donc si c'est une rupture conventionnelle, une démission, etc., ça va pas fonctionner. Donc ça fonctionne dans ce cas-là. Derrière, il y a encore un flou. C'est-à-dire qu'il y a l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc qui est énormément sur la partie assurantielle, qui s'est positionnée en disant que les prélèvements sociaux ne devaient pas être prélevés. Il y a la cour d'appel, je crois que c'est de Grenoble, qui s'est positionnée aussi en disant la même chose, mais l'administration fiscale ne s'est pas encore positionnée. Donc là, on parle des prélèvements sociaux, c'est 9,1%. Et il y a un sujet, en fait, sur tout ce qui est... pension de remplacement. Donc là, on est vraiment dans ce cas-là. En fait, ça va remplacer du coup la fin des allocations chômage, etc. Et pour l'instant, y a un petit peu un flou. Donc, ce qu'on peut lui dire, c'est que ce que je lui dis là, c'est pas encore opposable à l'administration fiscale.
Mais peut-être ça le sera.
Ça le sera un jour, mais il n'y a pas une jurisprudence en fait qui a été actée sur le sujet. Donc, il y a des compagnies d'assurance, on va dire, qui sont un peu ceinture bretelle, qui vont prélever ces 9,1% de prélèvements sociaux pour les redonner à l'État. D'autres qui sont peut-être plus souples et ne vont pas forcément le faire parce que la position n'est pas claire. Voilà.
Voilà ce qu'on pouvait vous répondre, cher Raphaël. On le voit, gros flou. En tout cas, merci Bastien pour ce topo. PER versus PERP, cet intérêt pour les Français, 10 millions séduits, 100 milliards d'encours et différents usages de ce PER qui peut aussi fonctionner peut-être pour les profils les plus capitalisés, à la fois comme un outil de défiscalisation et aussi, vous l'avez entendu, comme une solution de prévoyance, d'assurance décès et de protection de votre conjoint. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay comme l'ensemble des séquences de cette émission qui touche à sa fin. Sandra Gandoin nous a rejoint. Bonjour chère Sandra.
Bonjour Lorraine.
Le programme avec vous.
Plein de sujets, le CPF, le phishing, les cyberattaques, la prise de parole en public, comment optimiser aussi son expérience client quand on a un site par exemple. Vous nous posez toutes vos questions à vous sur la vie en entreprise, votre situation de patron à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Nos experts, ils sont quatre et ils sont là pour répondre à toutes vos interrogations dans un instant.
Vos réponses sur la vie de l'entreprise, c'est à midi. Dans 4 minutes, à 15h, vos réponses sur le Web3 et les cryptos. Bonjour Amaury.
Bonjour Lorraine.
On a Amadou qui vous a posé la question. Pourquoi le bull run Bitcoin n'a pas encore commencé? Vous allez lui répondre demain. Mais avant ça, vous avez votre émission aujourd'hui. Quel est le programme de votre émission?
On va faire une spéciale Web3 et IA. En quoi ces deux technologies peuvent être complémentaires, que l'IA peut servir le Web3 et le Web3 peut servir l'IA, notamment contre certaines dérives. Donc on en parle tout à l'heure à 15h.
Web3 et IA au programme de BFM Crypto, le club Amadou. Votre réponse sur pourquoi le bull run n'a pas encore commencé demain dans l'édito crypto, tous les jours, tous les vendredis, dans Tout pour investir. Bonne écoute sur BFM Business, on se retrouve demain.
Tout pour investir sur BFM Business.